Europe 1.
Nous sommes le mardi 26 mars, il est 7h.
On est à 496 interpellations ce soir. Et nous allons continuer notre lutte contre la drogue. Nous avons un travail au quotidien pour que ces points de deal n'existent plus. Pour que les Français retrouvent la tranquillité dans tous les quartiers populaires.
Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, hier soir à la télévision. Premier bilan, une semaine après le déclenchement de l'opération PlaceNet XXL contre la drogue, avec près de 500 interpellations. Donc, derrière les chiffres, une réalité. Nous irons à Roubaix, où les habitants ne croient pas au grand ménage. La menace terroriste, prise très au sérieux par l'exécutif. Deux projets d'attentats déjoués depuis le début de l'année, a révélé hier le Premier ministre. Quelle sera l'ampleur du déficit français pour 2023? Autre question à la une ce matin. L'INSEE va publier ce matin les chiffres définitifs, très loin des objectifs de Bercy, pour plus de 5,5%. Et puis séance de rattrapage ce soir pour les Bleus de Didier Deschamps. France-Chili, dernier match amical avant de basculer dans la préparation de l'Euro de football. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Avant de plonger dans le cœur de l'opération PlaceNet contre la drogue, je vous propose d'écouter ce qui s'est passé hier soir à Nice. Vidéo captée depuis un balcon du quartier des Moulins, au lieu du trafic de stupéfiants, règlement de compte entre bandes rivales à ciel ouvert et à l'arme de guerre, le quartier gangréné par le trafic, tout comme Roubaix dans la région de Lille. L'agglomération figure sur la liste de l'opération PlaceNet anti-drogue. Descente de police, bouclage du quartier, saisie de stupéfiants, démonstration de force qui laisse les habitants de marbre. Pour eux, la guerre contre le narcotrafic est déjà perdue. Reportage Maximilien Carlier.
C'est une rue coupée en deux. D'un côté, des fourgonnettes de CRS et policiers. De l'autre, une dizaine de jeunes attendent et tiennent les murs. Voilà ce qu'on voit dans le quartier du Pil à Roubaix après le lancement de l'opération PlaceNet. Un coup de com', affirme Hugo, un riverain désemparé.
Moi, je me sens complètement abandonné. Les dealers, clairement, voilà, ils sont installés. Ils sont vraiment en mode impunité zéro. C'est-à-dire que c'est eux qui contrôlent la rue. Ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. J'ai dû changer mes poubelles, moi, par exemple. J'ai dû les enlever pour mettre des sacs plastiques parce qu'ils me les prenaient tout le temps. J'ai eu quelques interactions avec eux et la police même m'a dit de me taire, quoi. Enfin, d'aller doucement avec eux parce que ça pouvait me mettre en danger.
Alors mon quotidien, c'est désormais d'ignorer les trafiquants, ajoute-t-il. On évite de passer devant les points de deal, explique Céline juste à côté.
C'est une grosse plaque. Il y a toujours des gens, des voitures qui passent jusqu'à 4h du matin, c'est tout le temps. Ça fait 5 ans qu'on est dans le quartier, on n'a qu'une envie, c'est de partir. On espère que ça bouge. On verra bien.
Mais on n'y croit pas trop, souffle cette habitante qui n'ose plus sortir de chez elle le soir par crainte de déranger les dealers.
Reportage à Roubaix du correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France, Maximilien Carlier. 5 agglomérations visées au total si l'on compte Marseille, où l'opération est toujours en cours. 496 trafiquants présumés arrêtés. Il en reste pratiquement autant à interpeller, c'est ce qu'assurait hier le ministre de l'Intérieur.
L'actualité, c'est également le plan Vigipirate, relevé à son niveau maximal depuis dimanche. La France a déjoué un projet d'attentat tous les 2 mois, dit le ministre de l'Intérieur.
Les menaces permanentes liées notamment à la branche de l'État islamique du Khorassan, c'est cette branche qui a frappé le centre commercial de Moscou. Attaque qui a fait, je le rappelle, 139 morts et près de 200 blessés. Mode opératoire qui n'est pas sans rappeler le Bataclan en 2015. Le ministre de l'Intérieur qui distingue 2 types de risques.
Il y a la menace principale qui est la menace parmi nous, ce qu'on appelle la menace endogène. Des gens qui regardent des contenus djihadistes et qui passent à l'acte, souvent au couteau, c'est 70% des passages à l'acte. Et puis, il y a une menace exogène de l'extérieur, comme le Bataclan, comme cet attentat en Russie. Et donc cette commande de l'extérieur par l'intérieur, il faut qu'on y fasse particulièrement attention. Et nous pensons que voilà, l'attention des services de renseignement et de la population française doit être éveillée, parce que la menace est forte, mais on n'a jamais été autant armé, je veux le dire aux Français, contre le terrorisme, et on n'a jamais autant déjoué d'attentats en France.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, hier soir à la télévision. On parlait des conséquences de l'attentat de Moscou. Une inflexion dans le narratif de Vladimir Poutine. Le maître du Kremlin nomme les choses pour la première fois. Les assaillants, des radicaux islamistes. Mais il n'en démord pas sur le fond. Il serait lié à l'Ukraine, selon lui.
Europe 1, il est 7h04. Retour en France. L'INSEE s'apprête à refermer le livre de compte 2023. L'Institut National de la Statistique va publier à 7h30 le chiffre définitif du déficit public français 2023.
Et Bercy sait qu'il ne sera pas bon, c'est-à-dire qu'au-delà des 4,9% anticipés pour bâtir le budget de l'entreprise France, ce sera sans doute 5,5%, voire 5,7%. Une catastrophe, ce trou viendra s'ajouter à la dette dette globale de l'État, plus de 3 000 milliards d'euros, conséquence d'un pays et de dirigeants littéralement accros à la dépense publique, selon l'économiste Lisa Thomas d'Arbois.
Dès qu'on crée une dépense, celle-ci devient due pour les citoyens, pour les entreprises. Emmanuel Macron a fait une promesse de ne pas augmenter les impôts. Et donc, vous avez ancré une croyance. Vous pouvez continuer à dépenser en Ukraine, contre l'inflation. Tout cela à mesure fiscale inchangée et avec une incapacité à pouvoir remettre en cause ces dépenses.
Lisa Thomas d'Arbois, économiste à l'Institut Montaigne. Elle était avec Barthélémy Philippe. Et puis, ce qui menace les Français, eh bien, c'est tout simplement la faillite du pays. Olivier Marleix, ce matin dans Le Figaro, le chef de file des Républicains à l'Assemblée promet de redemander des comptes à Emmanuel Macron et à son ministre de l'économie, accusé d'avoir laissé filer la dette.
Au Sénégal, maintenant une page se tourne. Bassirou Diomaye Faye, élu président dès le premier tour.
Et ses adversaires et le pouvoir en place, incarné par Macky Sall, ont reconnu sa victoire. Emmanuel Macron lui adresse également ses félicitations. Bassirou Diomaye Faye assure qu'il continuera de travailler avec les partenaires étrangers. Aux États-Unis, une bonne et une mauvaise nouvelle pour Donald Trump. La justice révise à la baisse le montant de sa caution. Ce sera à 175 millions de dollars. Le procès pour paiement dissimulé à l'ex-star du porno Stormy Daniels, en revanche, eh bien, il aura bien lieu à Viva Fried. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.
Oui, c'est un Donald Trump soulagé qui a donné hier une conférence de presse. Jusqu'à présent, il était dans l'incapacité de verser 500 millions de dollars de caution et la procureure de New York aurait pu commencer la saisie de ses biens. Mais avec le délai accordé et surtout cette réduction de 60% de la somme exigée pour faire appel, l'ancien président devrait pouvoir trouver les fonds nécessaires, qu'il affirme d'ailleurs détenir personnellement.
J'ai beaucoup de liquidités. Un juge véreux ne devrait pas dire « on va vous demander une caution et prendre tout cet argent » alors que je pourrais le dépenser pour ma campagne ou pour autre chose si je veux faire autre chose. Nous sommes très satisfaits du professionnalisme de la décision d'aujourd'hui.
En revanche, Donald Trump est nettement moins satisfait par la décision d'un autre juge de ne pas repousser à nouveau l'ouverture de son procès pour l'argent versé à la star du porno Stormy Daniels. Ce sera le 15 avril, un procès qui sera sans doute le seul à avoir lieu avant les élections. Les autres procédures, plus dangereuses pour l'ancien président et concernant notamment l'assaut sur le Capitole, ne cessent d'être repoussées, laissant à Donald Trump tout le loisir de se poser en victime d'un système qui cherche à l'abattre.
Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Rien ne va plus pour Boeing. Le PDG annonce sa démission. Dave Calhoun quittera ses fonctions à la fin de l'année. L'avionneur traverse une crise majeure de confiance après des incidents à répétition. Le dernier en date est le plus symbolique, sans doute l'arrachage d'une porte d'un 737 Max en plein vol.
À moins de 3 mois de l'Euro de football, les Bleus ont bien des choses à se faire pardonner ce soir face au Chili.
Oui, il a commencé par leur défaite 2-0 face à l'Allemagne. Nouveau match amical, ultime séance de rattrapage avant de basculer dans la préparation de l'Euro, Cyril de la Morinerie.
Oui, preuve que l'équipe de France traverse une période plus délicate. C'est Kylian Mbappé qui s'est de nouveau présenté hier en conférence de presse. Le capitaine des Bleus reconnaît que les Français ont été dépassés samedi dernier face à l'Allemagne, tout en précisant que ce n'était qu'un match amical. Pour Kylian Mbappé, ce revers est un avertissement avant l'Euro.
Il faut prendre conscience que si on joue comme ça dans les matchs qui nous attendent, on peut aller au-delà de grosses déconvenues et on veut pas que ça nous arrive, donc c'est à nous de réagir pour pas installer certains doutes dans l'équipe qui n'existent pas actuellement.
Un deuxième revers consécutif serait une première pour les Bleus de Didier Deschamps depuis 2015. Mais le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, interrogé sur Europe 1 par Jacques Vendroux, est certain que les Bleus vont réagir face au Chili.
Ça peut arriver même au meilleur d'avoir ce petit trou d'air. Personne n'aime perdre. Et donc je pense que contre ce match contre le Chili, ils vont assez vite reprendre leur revanche.
Les Bleus veulent absolument se relancer face à une équipe chilienne moins coriace que l'Allemagne à 80 jours seulement du début de l'Euro.
Cyril de la Morinerie, France-Chili, c'est à 21h au Stade Vélodrome, à Marseille, bien sûr.
Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.
Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito Écho.
Et surprise, l'audience des réseaux sociaux est en baisse depuis un an. C'est assez contre-intuitif. Baisse des fréquentations notamment de X, anciennement Twitter. On va voir ça avec Nicolas Bouzou dans 10 minutes. Juste après, l'invité actuel d'Europe 1 Matin, nous serons en ligne avec le docteur Sandrine Gignoux. Elle a posé le stéthoscope comme près de 5000 de ses confrères l'an dernier. On va voir pourquoi.
7h, 9h,
Europe 1 Matin.
Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le docteur Sandrine Gignoux.
Bonjour docteur.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Alors, il y a 4 ans, juste avant la crise du Covid, 1200 médecins avaient démissionné en bloc de l'hôpital public pour dire leur ras-le-bol face à la dégradation de leurs conditions de travail. Cet automne encore, une vingtaine de chefs de service de l'hôpital Robert Debré à Paris ont claqué la porte avec fracas. Alors, il y a ces grands coups d'éclat à l'hôpital et puis il y a cette vague encore plus massive de démissions silencieuses dans la médecine de ville. Partout dans le pays, des généralistes arrêtent d'exercer, rideau. Selon l'Ordre des médecins, ce sont 5400 professionnels qui ont ainsi arrêté d'exercer l'an dernier, hors retraite. Et c'est votre cas, Sandrine Gignoux. Vous, vous êtes à Saint-Martin-d'Air, près de Grenoble. Vous avez fermé votre cabinet au début du mois. Pourquoi, docteur Gignoux? Expliquez-nous.
Pourquoi? Parce que j'étais en train d'être en souffrance au travail et donc il fallait que je prenne une décision. C'était plus possible de continuer à travailler dans ces conditions-là, la souffrance au travail.
C'était quoi ces conditions-là, docteur Gignoux? Racontez-nous votre quotidien, ce qui vous a poussé à fermer votre cabinet. Je précise que vous n'êtes pas pourtant pas près de la retraite, hein.
Non, je viens d'avoir 50 ans, je voulais faire ce métier depuis que j'ai 6 ans, dans les années 90, nos enseignants qui ont essayé de nous décourager, parce que c'était un métier qui n'était pas du tout à la mode de faire de la médecine générale dans les années 90, et j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir à faire ce métier pendant 17 ans à Saint-Martin-d'Air. Et là, j'étais tout le temps en colère. Même les patients me le disaient. Je crois que ce qui nous met en difficulté, donc déjà des injonctions contradictoires des politiques, avec d'un côté, on nous demande de revoir plus de monde, mais on nous aide pas à avoir plus d'espace. Il y a vraiment le problème du local. On n'est pas du tout aidé. On avait 56 mètres carrés pour 3 médecins. Donc, on ne peut pas prendre d'assistants médicaux, d'infirmières IPA ou d'infirmières adalées.
Mais alors, vous étiez 3, pardonnez-moi, vous disiez vous étiez 3 médecins dans 56 mètres carrés. Vous êtes la seule à avoir arrêté, les deux autres continuent d'exercer ou bien on suit votre chemin, sont partis faire autre chose?
Alors, une autre de mes collègues est partie travailler aux urgences pédiatriques. Donc, c'est bien, l'hôpital public a gagné un nouveau médecin. Et puis, la troisième est restée et j'ai eu la chance, au mois de décembre, d'avoir une personne pour me remplacer au cabinet. Donc, finalement, là, elles sont deux.
Elles sont deux. Alors, votre patientèle, qu'est-ce qu'elle est devenue, docteur Gignoux? Vous aviez combien de patients, d'ailleurs? Vous vous en occupez de combien?
Ouais, j'avais environ 1000 patients. Là, du coup, comme une personne a pris ma place, a priori, cette personne va pouvoir s'occuper des patients.
Mais alors, c'est-à-dire quand même de 3 médecins généralistes, il n'y en a plus que 2 dans le cabinet que vous avez choisi de quitter.
Oui. Ouais. Mais, voilà. Oui, alors là, en ce moment, on a la chance d'être près de Grenoble, c'est qu'on arrive à trouver aussi des remplaçants, des jeunes étudiants. Enfin, qui finissent leurs études. Et donc, du coup, là, il y a un remplaçant en attendant de trouver quelqu'un qui pourra assurer la suite, on espère.
Vous dites, il y a un cocktail de choses qui vous ont conduit à la décision de faire autre chose. Vous faites quoi d'ailleurs aujourd'hui? Vous êtes reconverti? Vous êtes passé à toute autre chose?
Non, pas du tout. J'ai vraiment envie de continuer à faire de la médecine parce que j'adore ce métier. Non, je fais de la médecine scolaire à la ville de Grenoble. Donc ça me permet de soigner
Et vous avez retrouvé, tous les enfants. Vous avez retrouvé le plaisir d'exercer dans ces nouvelles fonctions?
Oui, vraiment.
Oui. Et pourquoi? Quelle est la différence avec l'activité en cabinet, en libéral?
Là, les conditions de travail deviennent trop difficiles. On n'arrive pas à adresser nos patients vers les spécialistes. Comme vous l'avez dit, l'hôpital est en train de péricliter. Ça va pas du tout. Les spécialistes, il y en a de moins en moins. Et en fait, on demande aux médecins généralistes d'assumer à peu près le soin de tout. À la fois sur le plan médical, donc ça on sait à peu près faire, même si on n'est pas des spécialistes, mais également sur le plan psychosocial, où là on n'a plus de relais auprès des CMP, plus de relais auprès des centres sociaux, et on doit à peu près tout faire, et ça c'est beaucoup trop à porter sur nos épaules.
Mais vous n'avez pas l'impression aussi, quelque part, par votre décision, vous allez contribuer finalement à cette aggravation de la situation médicale globale pour les patients, pour les malades, docteur Gignoux?
Je ne sais pas, dans le but de vous culpabiliser, mais je vous pose la question, est-ce que ça vous a traversé l'esprit de vous dire finalement, alors, oui, ma décision individuelle a des conséquences sur le système ?
Bah, bien sûr, effectivement, le sentiment de culpabilité, il est là, il est encore là. Hein. J'ai travaillé là-dessus, hein. je me suis fait accompagner. Mais continuer à travailler en colère, en souffrance, c'est pas possible. Les patients me l'ont remarqué. Prendre soin de soi, c'est aussi pouvoir prendre soin des autres après. Et je crois que c'est ça qui est important. Et je vois tellement le contraire qui vont très loin et qui deviennent des fois même.
Mais vous en parlez avec vos confrères.
À soigner des patients, en fait.
Et vous en parlez avec vos confrères, docteur Gignoux, de ce mal-être dans la profession de médecin généraliste.
Oui, bien sûr, on en parle quotidiennement et c'est vraiment, comme vous avez dit au début, je crois, une hémorragie silencieuse.
Merci beaucoup de votre témoignage. Docteur Sandrine Gignoux, en ligne avec nous depuis Saint-Martin-d'Hères, depuis Grenoble, où désormais donc, vous avez quitté votre cabinet médical pour faire de la médecine scolaire. On a besoin aussi de médecins scolaires, on en manque aussi cruellement. Merci de votre témoignage, bonne journée à vous.
Il est 7h18 sur Europe 1. Dans 5 minutes, le jour où votre rendez-vous quotidien avec les archives d'Europe 1.
Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour à tous.
Quel jour allons-nous revivre en ce 26 mars ?
La fusillade de la rue d'Isly à la fin de la guerre d'Algérie, le 26 mars 1962.
Voilà, avec un document exceptionnel redécouvert dans les archives d'Europe 1. Soyez là, c'est dans quelques instants, juste après l'édito écho sur Europe 1.
7h-9h, Europe 1 matin.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa,
bonjour
à tous.
Nicolas.
Alors en lisant votre chronique ce matin, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à vous croire, vu le temps que nous passons tous sur les réseaux sociaux. Vous nous dites qu'ils sont en perte de vitesse, Nicolas ?
Ouais, c'est un sondage qui a été réalisé par Sensor Tower, c'est un institut américain. Ça a été réalisé donc aux États-Unis et le sondage porte sur l'utilisation des réseaux sociaux via les applications sur nos smartphones. Alors depuis janvier 2023, le nombre de personnes qui utilisent les réseaux sociaux aux États-Unis baisse pour toutes les applications connues, Facebook, Instagram, Snapchat, ça baisse pas mal pour TikTok, mais le réseau social qui est le plus en difficulté, c'est de loin X, anciennement Twitter. Le nombre d'utilisateurs est passé aux États-Unis à 27 millions par mois, c'est une baisse de quasiment 20% en un an. L'audience américaine de Twitter décroche vraiment, d'après cette enquête.
Ouais, c'est impressionnant, pourtant la communication de X affirme que l'application gagne dans le monde. Plus 1 700 000 nouveaux abonnés chaque jour.
Ouais, je sais, mais aucun analyste n'arrive à reconstituer ces chiffres. Toutes les sources s'accordent. Twitter semble de plus en plus délaissé par les gens. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est la concurrence des plateformes vidéo comme TikTok ou Instagram qui sont de plus en plus préférées à Twitter, notamment par les jeunes. Et puis la deuxième raison, c'est la libération des règles de modération sur X. Depuis qu'Elon Musk a racheté l'application en 2022, Twitter était déjà peu régulé, mais c'est vraiment devenu une zone de désinformation qui ne semble pas du tout plébiscitée par les gens. En fait, le pari commercial de la totale liberté d'expression a été perdu et les gens ont de plus en plus l'impression de perdre leur temps sur cette plateforme. Et notamment les jeunes, d'ailleurs, faites cette expérience. Moi, je l'ai faite avec mes ados. Demandez-leur s'ils utilisent Twitter ou demandez à leurs amis. Mmh. En fait, ils connaissent à peine.
On se souvient qu'Elon Musk avait acheté Twitter 44 milliards de dollars en octobre 2022.
Ouais, alors d'après Sensor Tower, les annonceurs ont également quitté X. 75% des principaux annonceurs américains auraient mis fin à leurs dépenses publicitaires depuis ce rachat. Musk a modifié le modèle économique de la plateforme. Il est passé d'un modèle presque entièrement soutenu par la publicité à un autre qui comporte des abonnements avec notamment un service Premium Plus qui commence à 16 dollars par mois. Mais ces nouveaux revenus sont loin de compenser la perte de revenus publicitaires. Vous avez rappelé qu'Elon Musk avait acheté Twitter 44 milliards de dollars. Le fonds de gestion d'actifs Fidelity avait estimé la valeur de Twitter fin 2023 à 12,5 milliards de dollars en raison de ses pertes de recettes publicitaires. Bon, plus globalement, ces chiffres signifient que l'économie des réseaux sociaux reste instable. On sait que Facebook perd des parts de marché chez les jeunes, que TikTok fait face aux États-Unis à des menaces réglementaires qui mettent en cause sa présence là-bas. Twitter paie ses erreurs stratégiques. En fait, ces entreprises sont beaucoup plus fragiles qu'elles en ont l'air.
Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas, 7h21.
Europe 1.
Toute cette semaine sur Europe 1, à partir de 21h, Montelso avec Joe Hume qui vous fait revivre de nombreux souvenirs en musique.
Oui, toute cette semaine, l'homme pour qui la musique n'a aucun secret, Joe Hume, vous invite à fêter dans la joie les 40 ans du Top 50. Tous les soirs, Joe vous propose une programmation spéciale qui va nous rappeler à tous des souvenirs. On va danser, on va chanter avec les plus grands tubes du Top 50. Tiens, par exemple, en mars 85, il y a 39 ans tout pile, le 31 mars, eh bien, ce titre était numéro 1. Jeanne Masse,
ah, oui,
Johnny Johnny. Vous en souvenez ? Bien sûr, tout le monde s'en souvient dans le studio.
Nicolas Bouzou, il allait en discothèque à l'époque.
On va revivre les 40 ans du Top 50 avec une belle surprise. Tous les soirs, une voix de la grande famille Europe 1 viendra partager une chanson emblématique de cet âge d'or musical. Hey Joe, semaine spéciale Top 50, c'est de 21h à 22h tous les soirs.
Vous vous souvenez quand les inconnus étaient numéro 1 au Top 50 ?
Oui, bien sûr.
Quand le gag, l'imposture devenait une affaire sérieuse. Merci beaucoup Anissa Haddadi. 7h23 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité, le journal permanent. Christophe
Le chiffre du déficit public de la France publié il y a quelques minutes par l'INSEE, il a atteint 5,6% l'an dernier. Récession et crise mises à part, c'est le pire dérapage de l'histoire de la Ve République. La paysannerie européenne ne relâche pas la pression. Au moins 300 tracteurs attendus aujourd'hui à Bruxelles. Réunion des 27 ministres de l'Agriculture autour de la PAC, la politique agricole commune. Ils doivent se prononcer sur la révision des normes environnementales. Le football, dernier match amical avant de se lancer dans la préparation de l'Euro cet été. France-Chili à 21h ce soir au stade Vélodrome de Marseille. Séance de rattrapage pour les Bleus après leur défaite 2-0 face à l'Allemagne.
Le César du meilleur acteur.
Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos.
Yes, we can.
Serge Gainsbourg, bonjour.
Il n'y a eu qu'un vainqueur. C'est l'espoir.
Europe 1. Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où.
Le 26 mars 1962, les accords d'Évian sont signés depuis 8 jours. La guerre d'Algérie est donc officiellement terminée. Quand éclate à Alger ce jour-là la fusillade de la rue d'Isly. Des soldats français, l'an d'Autriche, ouvrent le feu sur des citoyens français opposés à l'indépendance de l'Algérie. Ce massacre du 26 mars va achever l'Algérie française.
Oui, nous avons retrouvé dans les archives d'Europe 1 un document exceptionnel qui a été à l'époque censuré à la télévision française. Le reporter d'Europe 1, René Duval, est le seul à l'époque à filmer l'événement au plus près. On voit et on entend l'armée française tirer sur des manifestants pacifiques et les manifestants crier « Ne tirez pas, halte au feu !» Écoutez.
« Ne tirez pas, halte au feu !»« Halte au feu !»
Les rafales se poursuivent, les cadavres jonchent le sol. Dans ce document, on entend aussi un militaire supplier un lieutenant de l'armée française d'arrêter les coups de feu.
Mon lieutenant, criez, je vous en supplie. Arrêtez le feu, arrêtez le feu ! Au nom de la France, arrêtez le feu !
Au nom de la France, halte au feu. Ce jour-là, même si aucun chiffre officiel n'a été donné, les historiens diront qu'il y a eu une cinquantaine de morts et 200 blessés. Une première rafale est partie sans que l'ordre ait été donné. Et ensuite, il y a eu une panique générale, raconte sur Europe 1 le journaliste Julien Besançon, quelques heures après la fusillade.
Aussitôt, on a tiré des balcons, des fenêtres, des toits. Les hommes, les femmes se marchaient dessus, arrachant leurs vêtements, abandonnant sur la chaussée leurs chapeaux, leurs lunettes, leurs chaussures, qui en est encore jonché dans les mares de sang à l'heure actuelle.
Et le journaliste d'Europe 1, René Duval, qui était en première ligne, revient 40 ans plus tard sur cette fusillade et sur le profil des soldats qui ont tiré.
Au début de la rue d'Isly, il y avait ce barrage de tirailleurs algériens, de supplétifs, et eux qui croyaient que la guerre était finie, ils étaient vraiment à cran avec les insultes que leur lançaient les pieds noirs. La tension était grande, et on aurait lancé un pétard, la fusillade aurait éclaté.
Ce drame est comme une tache indélébile de notre histoire. C'est une situation impardonnable pour la République, a dit le président Macron dans un discours il y a 2 ans.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche, pour cette page d'histoire et ce document exceptionnel redécouvert dans les archives d'Europe 1. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Et vous le savez, si vous êtes fidèle à Europe 1, si vous venez de nous rejoindre, je vous l'annonce tous les jours à cette heure-ci, vous pouvez gagner un très beau cadeau. Europe 1 vous offre cette semaine un week-end pour deux dans l'une des 4 Thalasso Valdis Resorts Hotel Thalasso et Spa pour vous ressourcer, pour retrouver votre vitalité, pour évacuer le stress. 2 nuits, 8 soins bien-être, on s'occupe de tout. Hein. Vous serez face à l'océan, soit en Bretagne, à Roscoff ou à Douarnenez, à Pornichet, Baie de la Baule en Loire-Atlantique ou encore à Saint-Jean-de-Mont en Vendée. Vous choisirez récupérer votre thalasso sur thalasso.com.
La question, la voici. Quel journaliste d'Europe 1 signe le reportage exceptionnel que vous venez d'entendre dans Le Jour où était-ce Gilles Schneider ou bien René Duval?
Pour tenter votre chance, vous envoyez thalasso au 7 39 21, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS. Vous répondez à la question du jour et le tirage au sort aura lieu vendredi. Bonne chance à tous. Notez qu'à 8h10, Nicolas Dupont-Aignan sera l'invité de la grande interview Europe 1 CNews.
Le député de l'Essonne, président de Debout la France, on commentera avec lui les chiffres du déficit public qui vont tomber d'un instant à l'autre. Ils sont très attendus. Rendez-vous avec Nicolas Dupont-Aignan face à Sonia Mabrouk dans 3 quarts d'heure.
Europe 1 matin. 7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Alors de quelle couleur le mur de la dette? Rouge, rouge vif, rouge écarlate. Europe 1 vous dévoile le poids de la dette, du déficit public de la France. Les chiffres de l'INSEE viennent de tomber à l'instant, 5,5% en ce qui concerne le déficit. Commentaire à suivre. Il n'y a pas de tabou, la petite musique de la hausse des impôts, de retour dans les rangs de la majorité pour tenter justement de rectifier les comptes publics. Vous attendez un colis, celui-ci n'arrive pas, peut-être a-t-il été volé directement dans votre boîte aux lettres. Reportage Europe 1 dans un instant sur ce phénomène qui prend de l'ampleur. Et nous évoquerons un pied de nez historique. Monet, Renoir, Pissarro, le mouvement impressionniste célèbre ses 150 ans au musée d'Orsay de Paris. L'ironie étant qu'ils doivent leur nom à l'un de leurs plus ardents détracteurs de l'époque. Le journal de 7h30 sur Europe 1, Nina Pavan. Bonjour Nina.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce qui guette les Français, c'est la faillite. L'attaque sans détour ce matin dans le Figaro d'Olivier Marleix, patron des députés LR à l'Assemblée, qui cible la gestion financière des comptes publics par la majorité. Baptiste Morin, bonjour.
Bonjour.
Chef du service économie d'Europe 1, les chiffres très attendus du déficit public viennent d'être dévoilés à l'instant par l'INSEE.
Oui, 5,5% alors que le gouvernement tablait sur 4,9%, 0,6 points d'écart. Ce n'est peut-être pas très parlant. Ramenez-le en euros et ça devient limpide. C'est 15 milliards d'euros de déficit supplémentaire. Alors on le savait, les recettes fiscales ont été moins importantes qu'anticipées l'année dernière, la TVA en tête. Mais quand même, ce n'est pas un dérapage, c'est une sortie de route. Et l'exécutif va devoir réagir. Bruno Le Maire a déjà annoncé, on s'en souvient, 10 milliards d'euros d'économies, oui. Mais ces économies-là, elles devaient corriger une autre prévision erronée du gouvernement, celle de la croissance pour l'année en cours. Pour l'année 2024, le déficit dont on parle là et dont l'INSEE vient de révéler le montant exact, c'est celui de l'année dernière, de 2023. Autrement dit, on a commencé cette année avec un boulet au pied, plus bas que prévu. Il va donc falloir compenser. L'exécutif va devoir annoncer de nouvelles mesures.
Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Alors peut-être le signe d'une certaine panique qui s'empare de la majorité. Emmanuel Macron s'est toujours refusé à augmenter les impôts, mais les langues commencent à se délier. Certains souhaitent que l'exécutif revienne sur cette promesse pour les entreprises réalisant des super profits, Jacques Seret.
Face au trou béant de la dette, certains commencent à avoir le vertige en Macronie. Il ne doit pas y avoir de tabou, lance la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet. En 2017, lorsqu'on a suivi l'aventure d'Emmanuel Macron, c'était justement parce que nous refusions les dogmes. Et le dogme qui lui pose problème est aujourd'hui une règle fixée par le président. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts en France, répète à l'envi le chef de l'État, qui, il y a un an à peine, fustigeait encore l'idée d'une hausse ciblée, parlant de piège à con du débat sur la fiscalité des riches. Mais Emmanuel Macron est aujourd'hui sous pression. En plus de Yael Braun-Pivet, François Bayrou, le patron du MoDem, allié historique, monte lui aussi au front et appelle le gouvernement à en discuter pour cibler les super-profits. De quoi donner ferrarissime satisfaction au président de la commission des finances de l'Assemblée, le député insoumis Éric Coquerel. Même Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, dit désormais être ouvert aux discussions. Au risque que ce cheminement contredise la promesse présidentielle.
Jacques Seret, je vous rappelle donc ce chiffre. Le déficit public de la France s'établit à 154 milliards d'euros pour l'année 2023.
Voilà, et la dette publique brute, 110,6% de la richesse nationale créée. On va évidemment continuer d'en parler ce matin sur Europe 1. L'actualité internationale, les États-Unis, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, tous trois dénoncent ensemble des cyberattaques chinoises.
Les trois pays accusent Pékin d'avoir mené pendant 4 14 ans un programme de cyberespionnage répondant, je cite, aux objectifs d'espionnage économique et de renseignement intérieur. Pékin, elle, dénonce des calomnies. Au Sénégal, la victoire surprise dès le premier tour du candidat anti-système Bassirou Diomaye Faye donne lieu à des scènes de liesse dans les rues du pays. À 44 ans, il devient le plus jeune président. Ce fidèle de l'opposant Ousmane Sonko dit vouloir travailler avec tout le monde et faire de son pays un allié sûr pour tous les pays étrangers qu'il jugera respectueux.
Il est 7h35 sur Europe 1. Peut-être en avez-vous été victime, un colis livré que vous ne trouvez pas dans votre boîte aux lettres. Et peut-être a-t-il été volé.
Et oui, les vols de colis dans les boîtes aux lettres explosent partout en France. Les plateformes de livraison, par peur d'effrayer les clients, refusent de donner des chiffres précis. Mais la police de Mont-de-Marsan vient par exemple d'ouvrir une enquête suite à une série de vols sans précédent. Un nouveau phénomène qui prend de l'ampleur grâce à des outils de plus en plus accessibles. Le reportage pour Europe 1 de Charles L'Huillier à Toulouse.
Tout un panneau de boîte aux lettres ouvert et plus rien à l'intérieur. C'était il y a 2 semaines dans l'immeuble où habite Julien.
Je suis allé en bas récupérer mon colis et tous les panneaux étaient ouverts. Et je me suis retourné du coup contre le prestataire, mais ouais, je me suis fait voler une paire à 200€. Ils ont vu que le colis a été livré. Aucune trace d'extraction parce qu'il y a pas la boîte aux lettres pas forcée. Du coup, ils ont rien pu faire.
Des boîtes aux lettres ouvertes sans aucune dégradation par les voleurs qui, au préalable, suivent les livreurs et opèrent dans la foulée. Grâce à des clés passe-partout disponibles en vente libre sur Internet, explique David Gless. Il est facteur.
On peut trouver des passes PTT, c'est-à-dire les clés qui ouvrent les batteries de boîtes aux lettres. On peut les retrouver sur des sites comme Amazon ou autres qu'on peut commander. J'en ai trouvé autour de 10€. Là, ça ouvre tout le panneau de boîtes aux lettres. Des répliques qui étaient avant des outils réservés aux postiers. Ça fait un petit peu peur.
Une peur légitime, à tel point que désormais les plateformes envisagent de ne plus livrer dans les zones touchées par ce phénomène pour privilégier les points relais, beaucoup plus sûrs. À Toulouse, Charles L'Huillier, Europe 1.
À Grenoble, à présent cette question, y a-t-il un violeur en série en liberté? 8 femmes disent avoir été agressées en pleine rue alors qu'elles rentraient seules chez elles le soir. Toutes décrivent un homme très violent qui passe à l'acte dès qu'elles franchissent le pas de leur porte. L'agresseur présumé court toujours.
150 ans, mais quel bel âge! Exposition anniversaire exceptionnelle consacrée au peintre impressionniste au musée d'Orsay à Paris. Exposition qui s'ouvre aujourd'hui et qui va durer jusqu'au 14 juillet.
Monet, Renoir ou encore Pizarro, le musée d'Orsay expose les tout premiers tableaux qui ont lancé ce mouvement artistique incontournable qui n'a pourtant pas convaincu tout de suite, Marie Jiquel.
Ils doivent leur nom à une moquerie. Les futurs impressionnistes Monet, Renoir, Degas décident d'exposer un soir d'avril 1874 leurs toiles exécutées en plein air qui n'imitent plus la réalité du jamais vu. L'événement rebelle déconcerte les critiques d'art de l'époque et la suite, c'est Sylvie Patry, commissaire de l'exposition, qui nous la raconte.
Tout a commencé par une moquerie, celle d'un journaliste qui ne comprend pas cette peinture, il ne comprend pas ce qu'il voit. Il donne pour titre de son article l'exposition des impressionnistes. Ce terme d'impressionniste, il le dérive en fait du titre d'un tableau de Monet qui s'appelle Impression soleil levant.
Et ce tableau à l'aura mystérieuse, le voici, un mur de l'exposition pour lui tout seul, une vue sur le port du Havre et dans ce paysage gris-bleu, le soleil, un point orange vif qui se reflète sur la mer.
Un paysage sans qualité, si je puis dire, sans poésie, et Monet en livre une impression très rapide, donc c'est très esquissé.
Cet effet esquissé, ses contours flous se retrouvent dans les tutus des danseuses de Degas, les champs de blé de Pissarro ou le fameux bal du moulin de la galette de Renoir.
Marie Jiquel pour Europe 1 du football à suivre ce soir, 21h sur la pelouse du stade Vélodrome de Marseille. La France affronte le Chili en préparation de l'Euro de foot de juin prochain. Les hommes de Didier Deschamps espèrent bien se rassurer après leur défaite 2-0 la semaine dernière contre l'Allemagne.
Merci beaucoup Nina Pavan, c'était votre journal. Je vous rappelle la principale information, justement ce matin, c'est le déficit public 2023. C'est confirmé à 5,5% pour l'année dernière, c'est-à-dire 154 milliards d'euros. La dette publique aussi, tiens, je vous en donne le chiffre, 3101 milliards. On a franchi donc le cap des 3000 milliards. On en reparlera évidemment dans le journal de 8h. Allez, à suivre l'édito international d'Europe 1. Direction dans quelques instants le Sénégal qui depuis 24 heures a un nouveau président. Il s'appelle Bassirou Diomaye Faye, porté par une énorme vague dégagistes. Vincent Hervouette nous fait les présentations dans un instant.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Il est 7h41, merci d'avoir choisi Europe 1. Très bon début de journée, Dimitri Pavlenko.
Dans 10 minutes, l'édito politique sur Europe 1. On va parler du retour de la menace du terrorisme projeté, la montée en puissance de l'État islamique au Khorasan, les grands attentats fomentés depuis l'étranger. Sommes-nous vraiment prêts à nous défendre? Voilà la question que nous posera Vincent Trémollet de Villers. Le club culture d'Europe 1 matin dans un instant. On va parler du jeu vidéo de la semaine. semaine. Bonjour Caroline Speller.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une bonne dose de bonne humeur et de mignon avec un jeu Nintendo. Et ce n'est pas un remake, une aventure inédite avec la princesse de Mario, Princess Peach Showtime.
Nicolas Caro, le livre du jour également.
Un Bret Easton Ellis au format poche, c'est génial.
Allez, à tout de suite. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette.
Bonjour Vincent. Dimitri Pavlenko.
Que vous arrive-t-il, Vincent?
Bonjour à tous.
Il va falloir attendre la fin de la semaine pour avoir les chiffres exacts et la proclamation officielle. Mais le Sénégal a un nouveau président. C'est un tremblement de terre politique.
Oui, les Sénégalais ont élu dimanche non pas un président, mais deux. L'officiel, c'est Bassirou Diomaye Faye. C'est Monsieur Bis, le plan B, la doublure, le conseiller couleur muraille. Il a remplacé au pied levé son mentor, le charismatique maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, déchu de ses droits civiques et donc inéligible. Les deux hommes sont sortis de prison à la mi-mars. Ils ont fait une campagne éclair, sans trop de programme, mais avec un slogan « Diomaye, c'est Sonko » et vice-versa. Pour leurs partisans, le passage par la case prison ne les a pas déshonorés. Au contraire, c'est un signe extérieur de vertu. Ce sont des victimes de la violence d'État que vient de venger, que le scrutin vient de venger. Alors en tout cas, 10 jours après la levée d'écrou, les deux tolards ont en main les clés du palais présidentiel, comme dans un conte de fées ou une révolution. Depuis des mois, le Sénégal est en crise et personne n'avait prévu ce dénouement. Surtout pas Macky Sall, qui a amnistié les deux hommes sous la pression de la rue, alors qu'il était prêt à tout, en tout cas à beaucoup, pour leur barrer la route.
Mais pourquoi et quel est le programme de ces deux hommes?
Alors le parti, c'est le PASTEF, écoutez bien, le parti des patriotes africains au Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, c'est beau et c'est flou. Le PASTEF prône plus de justice, moins de corruption, une meilleure répartition des richesses, plus d'équité dans les relations internationales. Qui est contre? Il se dit souverainiste et panafricain, comprenez que l'étranger doit cesser de piller le continent, surtout les blancs, c'est la version africaine du populisme. Bref, il n'y a pas de programme, mais il y a beaucoup d'impatience. Le PASTEF parle sans cesse de rupture, ça veut dire place aux jeunes. 70% de la population sénégalaise a moins de 30 ans. Cette jeunesse vient de donner son congé à la vieille classe politique, si familière de la France. Il y avait 13 candidats en lice, 2 anciens premiers ministres, le dauphin du président sortant, des caciques, tous atomisés. La vague de dégagisme porte donc au pouvoir le président le plus jeune du Sénégal. Il a eu 44 ans hier. Sacré cadeau d'anniversaire. C'est aussi le premier qui ait 2 épouses, celle qui lui a donné 4 enfants et une nouvelle, une jeune mauritanienne. Les deux hommes se défendent d'être des salafistes, mais ils sont plus proches du Qatar et des frères musulmans que des confréries gardiennes de l'islam sénégalais de tradition soufie. Aux législatives, Sonko, par exemple, promettait de pénaliser davantage l'homosexualité.
Moi, ça promet, hein.
Mais pour cette génération, la France, c'est de la préhistoire, un passé qui n'inspire aucune nostalgie. Ils sont tentés de se débarrasser du franc CFA. Ils veulent réviser les grands contrats, notamment sur l'exploitation du gaz offshore. Mais pas un mot sur la base militaire française à Dakar. Ils n'ont pas la volonté d'humilier les Français qu'ont manifesté les putschistes du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Mais c'est bien un domino supplémentaire qui vient de tomber. Comme toujours avec les populistes, les diplomates comptent avoir affaire à des opportunistes qui seront sensibles à la réelle politique. Il faut l'espérer. Sinon, cette jeunesse sénégalaise déçue prendra la route de l'exil, celle qui débarque tôt ou tard, au pied des Alpes ou au métro Pyrénées, dans le 19e arrondissement.
Je crois que c'est dans le 20e, si je ne m'abuse, Vincent. Oh, mais
en
peut-être
Paris,
avez-vous raison.
Paris,
non. J'y ai
rarement.
J'y ai habité. Bonne journée. Merci beaucoup, Vincent Hervouette. Signature Europe 1.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Ah, cet homme de précision qui est Vincent est à vérifier instantanément. Où en étais-je? Le livre du jour, Nicolas Caro, c'est à vous, Nicolas. Ce matin, c'est un livre de poche. C'est le dernier roman de Bret Easton Ellis, l'auteur d'American Psycho. J'en montre la couverture sur Europe1.fr.
Les éclats. Alors, pour ceux qui sont déjà fans, c'est un peu le mélange parfait entre son premier roman qu'il a publié à 21 ans, moins que zéro, sur la jeunesse dorée de Los Angeles, dont il fait partie, et American Psycho, publié en 1991, avec un héros tueur en série psychopathe.
Donc il y a un tueur dans la jeunesse dorée de Los Angeles cette fois.
C'est un peu ça, on est au tout début des années 80, le narrateur est un certain Bret Ellis qui raconte sa dernière année au lycée de Sherman Oaks, à côté de Beverly Hills et Hollywood. Ce sont des lycéens lycéens un peu particuliers. Ils sont à Buckley. Pour vous donner une idée, ça a aussi été le lycée de Kim Kardashian.
Ah oui.
Les élèves n'arrivent pas sur une 103 RCX Pokenji ou sur un scooter trafiqué, mais plutôt en coupé sport avec des Ray-Ban et des jeans Calvin Klein si possible. Et Brett nous emmène dans ce monde de fêtes, de drogue, de sexe et d'argent. Ça commence d'ailleurs avec la petite amie de Brett qui a convié quelques copains pour leur montrer son nouveau cheval. C'est chic.
Bon, et le tueur arrive bientôt.
On va voir. Pour l'instant, c'est un nouvel élève qui arrive, Robert Mallory. Et Brett est fasciné par lui, d'autant plus fasciné quand il commence à se demander si ce Robert n'aurait pas des liens avec un tueur en série qui traîne et qui a été surnommé le Trawler, le chalutier en français, à cause de ses méthodes de mutilation. Je ne vous dis que ça. Bref, on suit Brett et ses amis dans leur frasque et aussi dans leur paranoïa. On ne sait plus quoi croire jusqu'à la fin. Et on est aspiré dans cette ambiance, dans ce monde à la fois attirant et repoussant. C'est dérangeant, étouffant, haletant, angoissant, hilarant, avec une dénonciation en creux de l'époque et de la fragilité pénible de tout le monde, et un portrait de l'auteur, Bret Easton Ellis, solitaire, tourmenté et casanier, qui s'est fait passer toute sa vie pour un hyper intégré, noceur et fêtard. Alors que le seul truc qui lui plaît dans la vie à Bret Easton Ellis, c'est lire Flaubert et écrire des romans géniaux.
Et celui-ci est très réussi, Les Éclats, vous dites que c'est un des meilleurs depuis American Psycho ?
C'est juste le meilleur derrière American Psycho.
Oh bah dis donc, Les Éclats, donc Bret Easton Ellis, donc qui sort en format poche.
Il fait 800 ou 900 pages,
chez 10-10. Oui, c'est ça, j'ai regardé ça à 800. Mais bon, écoutez, l'été approche après tout, hein, pourquoi pas. Et puis, quelques pages par-ci, par-là, ça va vite. Jeux vidéo, Caroline Speller, vous mettez sous les projecteurs ce matin l'une des héroïnes les plus célèbres de l'univers Nintendo, Princess Peach Showtime, ça sort sur Switch.
Oui, à Peach, cette princesse blonde à la robe bouffante qui se fait kidnapper depuis 39 ans par le méchant Bowser et qui attend que Mario la sauve. Alors, avec les années, elle s'est tout de même émancipée en apparaissant dans plus de 100 jeux. Elle nous démontre alors qu'elle est autant capable de conduire un kart, marquer des buts ou se battre. Elle a même eu son propre jeu de plateforme en 2006 où elle affronte ses ennemis non pas à coups de carapace mais grâce à ses émotions comme ses larmes, sa colère ou sa joie.
Alors, son image de demoiselle en détresse est révolue, dites-vous, depuis la sortie du film d'animation Super Mario Bros. C'était quoi, il y a un an ou deux, hein ?
Oui, en 2013, pas du tout. Oui, Peach accède au statut de souveraine badass et le confirme avec le nouveau jeu Switch Princess Peach Showtime. Alors qu'elle se rend au théâtre, le voilà envahi par une sorcière maléfique et ses sbires. Ni une ni deux, Peach se lance dans le sauvetage de toutes les représentations et ses comédiens en montant sur scène. De décor en décor, elle incarne une épéiste, une cowgirl, une cambrioleuse ou encore une patineuse artistique dans un spectacle à la Holiday on Ice. Oui, Dimitri, Peach peut tout faire.
Alors, c'est plutôt pour les enfants, vous nous dites, en âge de lire, les joueurs occasionnels ou les débutants. Hein.
Oui, Dimitri, parce qu'on joue principalement avec deux boutons. Ce n'est pas pour autant que l'ennui pointe le bout de son nez. Et tout à fait, Anissa. Le jeu est un bel assortiment de plusieurs genres du jeu vidéo. À chaque costume que Peach endosse dans les différentes pièces de théâtre, on retrouve par exemple de l'infiltration, du combat, du tir, de la résolution d'énigmes ou du jeu de rythme. C'est là tout le panache de ce Peach Princess Showtime. On s'initie au jeu vidéo en douceur dans une aventure bourrée de surprises. Pour les joueurs plus aguerris, c'est un vrai moment douillet où Peach sait nous donner le sourire.
Voilà, donc c'est Nintendo dans toute sa splendeur, si je puis dire. Merci beaucoup Caroline Speller. Merci les amis. Dans un instant, votre édito politique sur Europe 1. Mais d'abord, à 7h50, le journal permanent. Nina Pavan.
Le déficit public de la France s'élève à 154 milliards d'euros en 2023, soit 5,5% du PIB. Chiffre révélé il y a quelques instants par l'INSEE, bien au-dessus des 4,9% prévus initialement par Bercy. La France propose une coopération accrue à la Russie pour lutter contre la menace terroriste. La branche de l'État islamique du Khorasan, qui a fait 139 morts vendredi à Moscou, cible aussi la France, selon les renseignements. À Grenoble, un violeur en série présumé recherché par la police. 8 femmes disent avoir été agressées au cours des derniers mois au pas de leur porte alors qu'elles rentraient seules chez elles le soir. Du football, ce soir à 21h, la France affronte le Chili au Vélodrome de Marseille. Match de préparation à l'Euro de football de juin prochain.
7h-9h, Europe 1 matin.
L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à
tous. Bonjour Vincent.
Vincent, après l'attentat de Moscou revendiqué par l'État islamique, la France a relevé son seuil d'alerte terroriste et déployé des milliers d'hommes supplémentaires dans le cadre du plan Vigipirate. On retrouve là un climat d'inquiétude que malheureusement nous avons déjà connu.
Oui, c'est un climat que l'on connaît en vérité depuis 12 ans. Ça a commencé avec l'entreprise macabre de Mohamed Merah en 2012 et ça a rythmé la vie de notre pays jusqu'au mois de décembre dernier quand nous apprenions l'assassinat d'un touriste allemand sur le pont Bir Hakeim tout près de la tour Eiffel. Depuis 12 ans, c'est plus de 270 personnes, des soldats, des enfants, des journalistes, des policiers, un prêtre, des professeurs qui sont morts en France frappés par la terreur islamiste. Ils ont été tués parce qu'apostats, juifs, laïcs, bouffeurs d'imams ou de curés, chrétiens, mécréants, décadents, ce que les islamistes résument en un mot, koufar. La litanie des noms, Sandler, Cabu, Amel, Beltrame, Paty, suffit à réveiller la douleur, le recueillement et la révolte. On sait maintenant qu'il faudra surveiller les églises la nuit de Pâques, les écoles jusqu'à l'été, et redoubler de vigilance pour le rendez-vous donné au monde entier pour les Jeux Olympiques. Cette menace existentielle, nous nous sommes résignés à vivre avec, mais on sait très bien qu'il ne suffira pas d'augmenter la vigilance, les caméras et les portiques. Cette question n'est pas qu'une question sécuritaire, c'est une question politique globale.
C'est-à-dire ?
Hugo Micheron, l'un de nos meilleurs spécialistes de l'islamisme, nous dit « Au-delà de la question sécuritaire, il existe un djihadisme entre deux attentats. Un djihadisme entre deux attentats. Ce djihadisme est transplanté par des militants dans des contre-sociétés installées sur notre territoire. Des contre-sociétés qui profitent de l'immigration anarchique et des effets continus de l'islamisation culturelle. Leur base arrière est sur le terrain même de leurs méfaits. Ils se protègent dans les quartiers affranchis des règles communes par la drogue et la délinquance. Ils s'appuient aussi sur les facilités criminelles que leur offre la complaisance d'une certaine gauche, l'aveuglement de certains juges, la timidité de gouvernants tétanisés par le procès en islamophobie, le soutien financier de puissances étrangères. Leur projet est d'imposer aux musulmans de France d'abord l'application stricte de la charia avant d'étendre la loi au territoire conquis. On peut faire mine de les oublier, on peut tenter de les minorer. Les islamistes, forts de nos faiblesses, poursuivent leur besogne.
Et vous diriez, Vincent, que cette menace islamiste est plus importante que celle que la Russie fait peser sur l'Europe ?
Un pays et un continent peuvent vivre sous plusieurs menaces, avoir plusieurs ennemis. Mais concrètement, aujourd'hui, les troupes que le président de la République se dit prêt à envoyer en Ukraine ont recommencé à patrouiller dans nos gares, dans nos rues, pour nous protéger des menaces terroristes. L'épouvantable attentat de Moscou nous rappelle que les fous d'Allah poursuivent leur agenda au mépris du nôtre ou de celui de nos adversaires. Et nous sommes toujours en retard face à cette menace. Au départ, Emmanuel Macron était étranger à ce choc de civilisation. Il cherchait même des causes sociales en 2015 au terrorisme, notamment pour se distinguer de Manuel Valls. Il a été contraint par la réalité des attentats tragiques qui se sont succédés pendant son mandat de durcir sa politique et son discours. Mais malgré le travail admirable de nos forces de l'ordre, notre réponse est très insuffisante. Nous continuons de subir les assauts répétés du djihad sous toutes ses formes. La charge historique, religieuse, identitaire de cette menace est telle que le pouvoir est trop souvent tétanisé. Il détourne les yeux. Il noie le poisson, il cède à l'esprit de défaite. Face à cette offensive islamiste, pourtant, il faudrait appliquer la formule que le président répète au sujet de Vladimir Poutine. Si on ne les arrête pas, ils continueront d'avancer.
L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. La une du Figaro justement ce matin. La France en alerte maximale face au terrorisme islamiste. Et pour tout comprendre de l'état islamique au Khorassan, je vous invite à lire notamment la tribune de Pierre Lelouch. Absolument édifiante et éclairante.
Et éclairante, oui.
Ouais, sur le sujet. Merci Vincent.
À demain.
À demain.
Il est 7h55 sur Europe 1. Très bon début de journée. Nous sommes le mardi 26 mars et aujourd'hui c'est l'anniversaire d'une reine, reine de la soul. Diana Ross a 80 ans aujourd'hui.
80 ans. Oui. Bon, comme le temps passe. Bon, une pensée pour Joël également ce mardi saint. Et nous fêtons Sainte Larissa, martyre du 4e siècle, qui fut brûlée vive avec d'autres chrétiens dans leur église en plein culte par un roi goth. Encore païen, Larissa, très honorée notamment par les Grecs et les Russes. Au programme de la prochaine heure sur Europe 1, Gaspard Proust à partir de 8h30. Juste après, l'invité de la grande interview Europe 1 CNews dans un quart d'heure face à Sonia Mabrouk, le président de Debout la France et député de l'Essonne, Nicolas Dupont-Aignan. Votre journal de 8h sur Europe 1 dans un instant. Nous sommes le mardi 26 mars, il est 8h.
Europe 1 matin. 7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Le dérapage budgétaire était-il incontrôlé ? Le déficit public de la France atteint 5,5% du PIB contre 4,9% initialement prévu par le gouvernement. Chiffre dévoilé par l'INSEE il y a une petite demi-heure. Alors les questions qui se posent, qui va payer ? Comment les marchés vont-ils réagir ? À quand les hausses d'impôts ? En tout cas celles que l'on assume. Élément de réponse dans un instant. La France sous la menace de la branche afghane de l'État islamique qui a déjà frappé Moscou vendredi dernier. Emmanuel Macron l'a confirmé hier. Sécurité sécurité maximale, plan Vigipirate au plus haut et un projet d'agent d'attentat déjoué en France tous les deux mois. Dans ce journal, également la colère du maire d'Orléans, obligé d'accueillir des migrants transférés sans concertation depuis la capitale. Et puis nous parlons football. Les Bleus ce soir face au Chili, victoire indispensable après la défaite de samedi soir et à trois mois du début de l'Euro. 8h10, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, juste après ce journal. Bonjour Sonia.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un déficit public qui explose, une opposition qui dénonce la faillite de la France, mais Bruno Le Maire affirme sa totale détermination. Réaction ce matin du député Nicolas Dupont-Aignan et président de Debout la France. À tout à l'heure.
Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Je maintiens l'objectif de passer sous les 3% de déficit public en 2027. Bruno Le Maire n'en démord pas. Ma détermination est intacte, dit le ministre de l'économie, malgré les chiffres catastrophiques publiés il y a une demi-heure par l'INSEE. 5,5% du PIB au lieu des 4,9% prévus par l'exécutif. Bonjour Baptiste Morin.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Chef du service économie d'Europe 1, 5,5% du PIB, chiffre du déficit public en 2023. Qu'est-ce que ça signifie, Baptiste ?
Eh bien, ça signifie un déficit à plus de 150 milliards d'euros et surtout une différence entre ce qu'avait anticipé le gouvernement et ce qui est finalement arrivé, de près de 16 milliards. Ce ne sont pas les dépenses qui ont dérapé l'année dernière, ce sont les recettes qui se sont asséchées. L'exécutif a misé sur une croissance plus élevée qu'elle n'a été. Le ralentissement a complètement asséché les caisses de l'État. Soit dit en passant, l'INSEE a aussi publié ce matin le chiffre de la dette. Là encore, l'exécutif a été trop optimiste. Il tablait sur 109,7% du PIB. La dette s'établit à 110,6%. Près d'un point d'écart sur ce chiffre-là, près de 30 milliards d'euros.
Alors Bruno Le Maire, Baptiste, vient de dire que malgré tout, les objectifs budgétaires du gouvernement restaient les mêmes. Un déficit ramené à 3% du PIB en 2027. Pour l'atteindre, il faudra plus de détermination, beaucoup de méthodes, beaucoup de sang-froid, vient de dire le ministre de l'économie. Quelles sont les pistes pour s'en sortir, Baptiste ?
Et il a ajouté pas d'augmentation d'impôts. Il l'a répété encore ce matin. Bon, d'une certaine manière, les Français vont bien finir par payer. Il y a des premières mesures qui peuvent être assez vite décidées. C'est ce qu'explique l'économiste Éric Pichet, il est spécialiste des finances publiques.
Bon, il y a une manière assez indolore de le faire, c'est par exemple de ne pas augmenter le barème de l'impôt sur le revenu du niveau de l'inflation, on économise 5-6 milliards, de ne pas indexer les pensions de retraite sur l'inflation, on économiserait encore 5 ou 10 milliards. C'est là où il y a des gisements d'économie les plus importants, mais évidemment, c'est très impopulaire.
Et puis il y a l'éléphant dans la pièce, les dépenses publiques, notamment les dépenses sociales. Là, c'est Agnès Verdier-Molinier, la directrice de l'IFRAP, qui le dit, il ne faut pas hésiter.
Ce sont des milliards d'euros qu'on peut économiser sur la dépense d'éducation, ce sont des milliards d'euros qu'on peut économiser sur les aides sociales versées sous critères de ressources, des milliards aussi qu'on peut économiser sur l'absentéisme, notamment dans les collectivités locales des agents publics. On peut viser très très facilement 50 à 60 milliards d'euros d'économies à l'horizon 4-5 ans.
Ça, c'est la théorie, tout ça dans un contexte politique délicat. L'exécutif n'a pas de majorité au Parlement. Il va donc devoir trouver une ligne de crête, trouver plusieurs dizaines de milliards d'euros d'économies dans les prochaines années, tout en ne donnant pas l'impression de virer dans l'austérité.
Merci beaucoup Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1.
Austérité, mot tabou, on dit sérieux budgétaire désormais. La France dans le rouge donc, mais Gabriel Attal l'a promis, face au terrorisme, le gouvernement ne lésinera pas sur les moyens.
Et la France est de nouveau en alerte urgence attentat. 4000 militaires supplémentaires sont mobilisés dans le cadre du plan Vigipirate. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, l'a dit hier soir sur France 2. Chacun de nous doit être vigilant.
Nous pensons que l'attention des services de renseignement et de la population française doit être réveillée parce que la menace est forte. On n'a jamais été autant armé, je veux le dire aux Français, contre le terrorisme et on n'a jamais autant déjoué d'attentats en France.
Et depuis le début de l'année, deux projets d'attentats islamistes ont été déjoués en France, selon Gabriel Attal. À Moscou, c'est l'EIK, l'État islamique au Khorassan, qui a revendiqué l'attaque de vendredi soir. Branche de Daesh, qui compte environ 2000 combattants et dont la menace est prise très au sérieux en France depuis plusieurs années, William Molinier.
Depuis deux ans, les capteurs du contre-terrorisme ont été réorientés vers l'Asie centrale. L'électrochoc a eu lieu à l'automne 2022. La DGSI interpelle un Tadjik et un Tchétchène dans l'est de la France. Les enquêteurs les soupçonnent d'avoir été activés par la branche afghane de l'État islamique. Un autre projet d'attentat a été déjoué en fin d'année dernière, impliquant cette filière. Plusieurs étudiants ont été interpellés à Nancy avant d'être relâchés sans poursuite judiciaire. Mais selon les informations d'Europe 1, le renseignement français travaillait sur l'hypothèse de repérage réalisé sur le marché de Noël de Strasbourg. jours pour le compte de l'État islamique au Khorassan, le IKA. Cette branche de Daesh pose des difficultés de traduction pour exploiter les écoutes, souligne une source de l'antiterrorisme. On y parle le russe, le turc et des dialectes caucasiens. Les Tchétchènes en France font l'objet d'une attention toute particulière. Ils étaient déjà très impliqués dans les filières de départ en Syrie et en Irak. Le risque principal est que certaines cellules dormantes soient activées à distance depuis la région de l'Afghanistan que les Occidentaux ont déserté depuis le retrait des troupes américaines en 2021.
William Molinier, spécialiste défense d'Europe 1. À Moscou, Vladimir Poutine a reconnu hier que ce sont bien des islamistes radicaux qui ont tué 139 personnes au Crocus City Hall vendredi soir. Mais le maître du Kremlin, qui vient d'être réélu sur la promesse d'assurer la sécurité des Russes, continue d'accuser l'Ukraine d'être en lien avec cet attentat.
Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06.
15 000 policiers mobilisés, près de 500 interpellations en deux semaines. Bilan provisoire des opérations Place Net XXL.
En plus de Marseille, 4 autres ont été lancés hier matin dans le Nord, en région dijonnaise, lyonnaise, mais aussi autour de Paris.
Et à tout juste 4 mois de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, Paris, justement, tente de faire place nette dans ses rues et de se débarrasser des migrants.
Ils sont dispatchés dans plusieurs villes de province pour soulager la capitale. Un transfert en catimini, selon le maire d'Orléans, Serge Grouard, ne décolère pas et il dénonce le silence des services de l'État, Martin Lange.
Oui, selon l'édile, ce sont environ 500 sans-abri, la plupart en situation irrégulière, qui ont débarqué dans sa ville depuis un peu moins d'un an. Toutes les 3 semaines, un bus arrive depuis Paris avec à son bord entre 30 et 50 personnes sans l'aval de la municipalité, le maire Serge Grouard.
C'est là où ce système est choquant. En tant que maire, je ne suis pas au courant. Depuis des semaines, je demande des précisions, je demande ce qu'il en est. Je n'ai aucune réponse précise. Paris, la région parisienne sont débordés, alors on se dessert en province. Et après, quand on sera desserré en province, on fait quoi? On n'est pas dans le monde des bisounours. Et moi, je demande que l'État assume ses responsabilités.
L'an dernier, l'État a mis en place des sas d'hébergement temporaire en région pour désengorger l'Île-de-France. Celui du Centre-Val de Loire est bien situé à Orléans. Depuis mai 2023, il a accueilli 523 personnes. Après l'étude de leur dossier, elles sont censées être réorientées dans une autre structure de la région. Mais le maire d'Orléans dit craindre que ces migrants se retrouvent dans la nature. Il a décidé de saisir le ministère de l'Intérieur.
Martin Lange.
Emmanuel Macron, lui, est attendu au Brésil aujourd'hui, après un passage de 36 heures en Guyane.
Oui, après une ultime étape à Kourou, le chef de l'État va rencontrer Lula à Belém, dans le nord du Brésil. Objectif, réchauffer les relations avec le Brésil, rafraîchi après l'élection de Jair Bolsonaro. Au menu des discussions, des sujets tendus, comme l'Ukraine ou le Mercosur, et des sujets de concorde, comme la transition écologique. Emmanuel Macron qui a adressé cette nuit ses félicitations à un autre président, celui du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, élu hier, un séisme politique dans le pays, le seul encore stable en Afrique de l'Ouest.
Allez, le football, France-Chili, 21h à ce soir à Marseille.
Les Bleus ont une défaite à se faire pardonner. Personne n'a digéré le 2-0 face à l'Allemagne samedi soir. À quelques mois de l'Euro, ils vont donc tenter de se racheter dans l'ambiance survoltée du Vélodrome. Reportage du correspondant d'Europe 1 à Marseille, Stéphane Burgat.
Les Bleus sont attendus au tournant. La défaite contre la Mannschaft a laissé des traces chez les supporters.
L'apathie contre l'Allemagne, en 30 secondes pendant un but, on se dit qu'on n'est pas beau.
Roberto cherche encore des explications.
Cela vous manque, en parlant de Griezmann. Je pense qu'il manque, Il faut savoir jouer sans les vedettes. Hein. Ça devait manquer certainement d'envie et de niaque. Peut-être qu'il manque d'entraînement, ils doivent se voir. Peut-être qu'il va y avoir des stages. Enfin, j'espère que ce n'était qu'un accident.
Alors dans la dernière ligne droite, avant l'Euro, certains comme Yoni et Michael inquiète déjà.
Ouais, franchement, ça le fait pas. Faut tout changer un peu. Quand tu regardes dans l'ensemble, ben, c'est pas beau à voir. Ça fait pas plaisir.
Ils nous ont déçus et ils nous ont fait peur à la fois. Le milieu de la France, il est catastrophique.
D'autres, à l'inverse, prennent du recul, comme Christian, qui maintient sa confiance en Didier Deschamps.
Bon, c'est un passage à vide, ça arrive. Puis il a essayé des nouveaux tandems. On essaye. Je pense que là, ils vont donner ce qu'il faut.
Et pour tous ces supporters, il y a l'espoir que l'ambiance du Vélodrome puisse servir d'électrochoc pour les Bleus. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Merci beaucoup Fanny Marceau.
Merci.
C'était votre journal sur Europe 1 à 8h09. À partir de 8h30, n'oubliez pas, vous retrouverez Gaspard Proust en compagnie de toutes vos signatures du mardi avec Emmanuel Ducrot. On parlera de William Shakespeare, cible d'une offensive woke de l'autre côté de la Manche. La revue de presse d'Europe 1 également d'Olivier Delagarde. Juste après, l'invité de la grande interview Europe 1 CNews, c'est Nicolas Dupont-Aignan face à Sonia Mabrouk dans un instant.
Europe 1 matin, 7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Merci d'écouter Europe 1 tout de suite. Nicolas Dupont-Aignan est l'invité de Sonia Mabrouk.
Bienvenue et bonjour Nicolas Dupont-Aignan.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Merci de votre présence. Vous êtes député de l'Essonne, président de Debout la France. Le déficit public de notre pays pour l'année 2023, initialement prévu à 4,9, explose 5,5% ce matin. Bruno Le Maire reconnaît un mauvais chiffre, mais affirme que sa détermination est totale à revenir dans les clous. Comment vous réagissez ?
C'est surréaliste. On a un ministre de l'économie qui, depuis 2017, passe plus de temps à écrire des livres qu'à gérer les finances de la France. Il a écrit 8 livres en 7 ans. Moi, je ne sais pas comment il fait. Et si on regarde le bilan depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est plus de 800 milliards de dettes et on va arriver à 1000 milliards. Vous vous rendez compte, les Mozart de la finance sont devenus les tocards de la finance.
Tocards, dites-vous ?
Mais la France est en faillite.
Oui.
La France est en faillite. Et ce qui me révolte le plus, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai écrit un livre avant la présidentielle, Où va le pognon ? Un livre concret où je recensais des économies. Parce que c'est facile de critiquer un déficit si on ne propose rien.
On va en parler.
J'ai proposé des économies. Ce qui me révolte le plus, c'est que Emmanuel Macron et Bruno Le Maire savaient depuis plus de six mois, que les finances dérapaient. Ils le savaient. Il y a une mission sénatoriale qui a été à Bercy, vérifiée, qui a découvert l'étendue du désastre.
Sur pièce et sur place.
Sur pièce et sur place. Mmh. Et pendant ces derniers six mois, je ne fais pas de politique sur le passé, on pourrait parler du confinement. Souvenez-vous, j'étais l'un des seuls à dire pas de confinement, arrêtez cette folie. Bon, on passe là-dessus. Mais depuis six mois, ils savent que les comptes dérapent. Si vous avez chez vous un découvert à la banque et que votre découvert explose, bah vous faites quelque chose. Non. Et, non, mais c'est pire que ça.
Le ministre de l'économie, Nicolas Dumas, reconnaît, affirme qu'il y a eu moins de recettes que prévu.
Attendez, il le savait depuis six mois.
C'est-à-dire qu'il le savait. On dirait que consciemment, il klaxonnait vers la bille.
Je vais vous dire ce qui se passe. C'est que je pense que Bruno Le Maire savait, puisque le Sénat l'a vu dans les livres, sauf si Bruno Le Maire écrit des livres et va jamais voir son ministère. Bon, donc, soit il est complètement incompétent, soit il est d'un cynisme absolu. Non, mais la réalité, c'est que le vrai patron, c'est qui ?
Dites-moi.
C'est Emmanuel Macron. Mmh. Qui a distribué des milliards depuis six mois ? Quand Emmanuel Macron va à Bruxelles et distribue 13 milliards à l'Ukraine,
en tout
13
tout
milliards
total.
En tout, si on compte la part de la France dans la facilité dite de paix, pour acheter des armes américaines, et si on compte les 3 milliards supplémentaires, 13 milliards, comme ça. Si on compte les emprunts à taux variable indexés sur l'inflation, c'est un sujet un peu technique, mais vous savez que je vous en avais parlé déjà, je suis un des rares à en parler dans la classe politique française, au lieu d'emprunter à taux fixe 100% de notre dette, on emprunte à taux variable 10%. Vous savez combien ça nous a coûté l'année dernière ? 12 milliards.
Mais vous parlez à
l'Union
équation
européenne,
égale.
10
Sauf
milliards.
Que le gouvernement affirme, est-ce que vous estimez que c'est faux ? Que la situation économique s'est beaucoup dégradée, notamment en Chine, qui est la situation géopolitique. Il n'y a aucune circonstance atténuante selon
non,
vous ?
Non, c'est toujours la faute des autres. C'est jamais de leur faute. Vous savez, un artisan, si vous avez des artisans qui nous regardent, des commerçants, quand vous avez une trésorerie, y a un moment... c'est pas la faute des autres, c'est la vôtre. Il est en charge des deniers publics. La Déclaration des droits de l'homme de 1789, il est en charge des impôts. C'est l'argent des Français. Alors, je dis pas que c'est facile. Je dis simplement que quand on voit un trou se creuser, on ne distribue pas des dizaines de milliards. Et je propose des mesures précises, précises. Si on avait suivi ce que je disais sur les emprunts à taux variables en empruntant toute notre dette à taux fixe, on aurait économisé 12 milliards par an. Par an. Si on ne versait pas tant d'argent à l'Union européenne, 10 milliards d'économies. Si on n'avait pas versé à l'Ukraine, 13 milliards. Les cartes vitales, on n'arrive toujours pas.
On ne peut pas rentrer dans toutes les pistes, mais on verse de l'argent à l'Union européenne parce qu'aussi on en a, même si on est un contributeur
net
important.
Net de 10 milliards.
Certes, par exemple, je vous dis, ce matin, Bruno Le Maire affirme qu'il va faire des économies, évidemment, sur l'État sans piocher, dit-il, dans les poches des Français. Est-ce que vous croyez à cette promesse de non-hausse des impôts, alors que vous l'avez entendu, la petite musique dans la majorité, c'est de dire que le débat n'est pas tabou.
Alors, je vais vous dire comment ça va se terminer avec eux. D'abord, ils vont taper sur les plus pauvres. Voilà. Ils vont ne pas indexer les pensions de retraite, ne pas indexer les fonctionnaires les plus modestes. Ils vont taper les pauvres, alors qu'ils gaspillent l'argent des Français dans des gouffres. C'est scandaleux. Et deuxième point, ils vont augmenter les impôts. Ils l'ont déjà commencé. Je vais vous donner un exemple. La taxe sur l'électricité, ils l'ont augmentée. Ça, c'est pas un impôt.
Mais vous savez pourquoi ils l'ont augmenté ? Parce qu'ils sont revenus à une situation initiale.
Oui, mais vous oubliez une chose, que la Cour des comptes, là, c'est pas moi, parce que quand je vous l'avais dit une fois à un grand rendez-vous sur le prix de l'électricité, la haute trahison que ça représente, on m'avait dit « Pourquoi tu dis ça ?» Mais la Cour des comptes, c'est pas moi, vient de dire qu'il y a eu 30 milliards d'argent public qui est parti, non pas chez les Français, chez les fournisseurs d'électricité. Voilà pourquoi je propose, parce qu'à chaque problème, j'essaye d'apporter une solution. Le retour d'un prix national de l'électricité. Voilà. Donc, si vous voulez, en fait, l'argent part de partout. Et puis maintenant, ils vont nous dire, bah, faut augmenter les impôts. Mais s'il n'y a pas de croissance, parce que Bruno Le Maire dit, ah oui, les recettes se sont effondrées. Ah, mais pourquoi ? Peut-être parce qu'on a le niveau d'impôt le plus élevé du monde. Et peut-être aussi parce qu'on a une concurrence déloyale liée aux accords de libre-échange. Donc, en fait, tout se tient. L'économie productive française s'effondre. Il y a moins de recettes. Et donc, on a plus de déficit.
On est un pays qui produit moins, un pays de services. Et reconnaissez que ce n'est pas évident d'inverser la machine et la tendance.
Bien évidemment, mais c'est quand même ce qu'on a proposé depuis 10 ans, régulièrement, ce que j'ai proposé, pas le seul. Et reconnaissez qu'il est au pouvoir depuis 8 ans, 7 ans et demi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Mais justement, il reste encore 3 ans. Comment tenir dans une telle situation économique ? Est-ce que le député que vous êtes propose, je ne sais pas, un sursaut, une action, une réaction ?
Très simple. Je pense qu'il faut une motion de censure. Je demande aux Républicains qui tiennent la motion de censure dans leurs mains, qui passent leur vie à nous dire qu'ils sont des bons gestionnaires. Ils n'ont qu'une solution, s'ils veulent être crédibles. Censurer le gouvernement, puisqu'il y a déjà la censure possible, il manque les voix républicaines.
Je dis à Éric Ciotti,
oui, de toute façon c'est très simple, ou Éric Ciotti devient Premier ministre et devient le Premier ministre de Macron, je pense pas que c'est ce qu'il souhaite, j'espère pas, ou il y a une censure pour qu'il y ait de nouvelles élections législatives, pour qu'il y ait une nouvelle majorité, et là je recommande une grande coalition de gens raisonnables allant des Républicains au Rassemblement National en passant par Debout la France, pour éviter de continuer 3 ans de naufrage sur l'économie, mais aussi sur la sécurité, sur l'immigration.
Parlons-en.
On ne peut pas attendre 2027.
Sur la sécurité et l'aspect géopolitique, Vladimir Poutine a affirmé hier, Nicolas Dupont-Aignan, que l'attentat avait été commis par des islamistes radicaux, tout en maintenant, selon lui, un lien avec Kiev. Et on a appris que la France avait été visée par des tentatives d'attentat. Gabriel Attal l'a évoqué. Est-ce que vous estimez aujourd'hui, puisqu'il y a eu un relèvement du plan Vigipirate, que la menace est prise au sérieux et que nous sommes suffisamment protégés, même s'il n'y a pas malheureusement de risque zéro nulle part.
Vous savez, on a des services de police, de renseignement exceptionnels. Je leur fais confiance. Dans un moment grave, je pense qu'il faut se rassembler, pas faire de polémique. Je regrette que des mesures contre l'islamisme n'aient pas été prises, toujours pas prises. Et je regrette qu'on se trompe de conflit. Et je demande une nouvelle fois qu'on arrête la propagande folle contre la Russie. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine est un conflit local, ancestral, tragique, fratricide entre deux peuples frères qui ont vécu ensemble 400 ans. Et j'estime que la France commet un contresens géopolitique, historique, à mettre de l'huile sur le feu. Il devrait être proposition de paix. Le vrai défi, c'est l'islamisme.
Attendez,
qui gagne l'Afrique, gagne le Moyen-Orient. C'est pas la Russie.
Pour vous, c'est pas la guerre en Ukraine,
bien
c'est pas Vladimir Poutine, c'est la menace islamiste.
Mais bien évidemment. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu Vladimir Poutine contre Daesh en Syrie, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Donc, il faut arrêter ce délire. Et je le dis, je ne dis pas que Poutine a raison sur tout, bien évidemment. Je suis totalement neutre. Je dis simplement...
Est-ce qu'on peut être neutre aujourd'hui ?
Oui.
Totalement neutre, c'est-à-dire que
totalement.
Vous estimez... que
les torts
vous
sont
mettez
partagés.
Sur le même... Les
totalement.
Torts sont partagés, mais
totalement.
À la fin, il y aura un vainqueur et un vaincu
non.
si on ne réagit pas.
Non,
pourquoi ?
Il faut... pas qu'il y ait de vainqueurs et de vaincus, il faut la paix. Et cette paix est possible. Elle a été négociée à Istanbul en décembre 2022. Mmh. Qui a refusé ? Ce sont les Américains et les Anglais. Jacques Chirac, Dominique de Villepin, avaient proposé que l'Ukraine soit une zone démilitarisée, neutre, que l'OTAN n'avance pas. Dès 2014, l'OTAN a avancé. L'Ukraine a bombardé le Donbass. Poutine a agressé
Monsieur
l'Ukraine.
Dupont.
Les torts sont partagés.
Oui.
Soit on fait la
si.
Paix,
mais c'est quoi,
soit
la
on fait
paix
la paix.
Allons plus loin. La paix,
oui.
c'est s'asseoir autour d'une table, ce sont des négociations.
Oui.
C'est donc acter de concessions territoriales d'une perte de souveraineté. Est-ce que vous,
non,
à la tête d'un pays...
Pas obligatoirement. Il y a une paix possible s'il y a une démilitarisation de l'Ukraine, si l'OTAN reste où elle est, n'avancent pas. Et si on comprend, dans la petite tête des Occidentaux, que cette guerre est le suicide de l'Europe au XXIe siècle, fait le jeu de la Chine, la dépendance économique vis-à-vis des États-Unis et la puissance de l'islamisme à notre sud. Si on ne comprend pas qu'il y a des priorités et des choix à faire, eh bien, l'Europe sortira de l'histoire.
Vous dites si
l'Europe
l'OTAN...
est en train de sortir de l'histoire par un conflit absurde.
Mais vous dites si l'OTAN n'avance pas.
Oui, et l'OTAN doit s'arrêter.
Bien. Et quelle garantie vous avez que Poutine n'avance pas?
Mais Poutine est incapable d'avancer.
Pourquoi?
Physiquement.
Il n'y a pas d'impérialisme, il n'y a pas d'expansionnisme mais belliqueux. Vous non. pouvez garantir ce matin mais, qu'il n'irait pas plus loin, Pologne, Pays-Bas.
Pas pour une raison de volonté, il en a peut-être envie, mais pour une raison de force, il n'arrive même pas à conquérir le Donbass. Et vous croyez que face aux forces de l'OTAN gigantesques, il va agresser la Pologne? C'est une propagande folle. C'est une absurdité. Vous savez, si les États-Unis voyaient arriver au Mexique des bases chinoises, des missiles chinois, je crois qu'ils réagiraient. Si la France voyait à Monaco ou en Wallonie des bases chinoises et russes avec des missiles pointés sur Paris, je crois qu'on réagirait. Donc il y a un moment,
mais à partir de
il faut
quel
qu'on
pays
arrête ce conflit fratricide entre slaves, entre chrétiens. Il faut qu'on voit les vraies menaces. Et je suis stupéfait de l'absence de vision historique de nos dirigeants. Ça me fait de la peine pour l'Europe.
Certains pourraient vous dire à partir de quel pays envahi il faut intervenir.
L'Ukraine a été russe pour la partie Est pendant des siècles. C'est une zone tampon. Je ne dis pas que la Russie doit se retirer, bien sûr. Mais il y a une possibilité, les deux parties sont épuisées. C'est le moment de la paix et la France, au lieu de mettre de l'huile sur le feu pour des raisons bassement électorales chez les Européennes, ferait mieux de jouer la paix et de défendre ses frontières contre l'intégrisme islamique.
En tous les cas, ce sujet, cette guerre impacte, si je puis dire, les élections européennes. Dans les différents sondages, Nicolas Dupont-Aignan, votre score est très modeste, mais chaque point compte dans cette âpre bataille. Est-ce que vous allez maintenir une liste souverainiste debout à la France ou alors, compte tenu des difficultés, est-ce que vous vous retirez?
Eh bien, je vais vous le dire très franchement, j'ai beaucoup réfléchi. Et puis, je me suis dit... Moi, mon rôle, c'est d'être à l'Assemblée nationale. J'ai été le seul député de droite dit à voter contre l'accord avec l'Ukraine. Je défends une vision gaullienne de la France et donc je resterai à l'Assemblée nationale et je ne conduirai pas de liste. Voilà. Parce que, d'abord, il y en a plein de listes. Et au moment où la France est en faillite et où il y a ce conflit, mon boulot, mon modeste boulot, il est de défendre une certaine idée de la France et de préparer les échéances suivantes qui me paraissent beaucoup plus importantes que les européennes. Voilà.
Il y a encore
et comme on
ne
peut pas tout faire dans la vie...
J'entends. Mais il y a encore quelques semaines, la liste souverainiste, votre liste était d'actualité. Pourquoi est-ce que vous renoncez?
Parce c'est que
la certitude
les circonstances,
de ne pas rembourser les frais de campagne.
Les circonstances ont changé. Mon rôle, c'est d'être à Paris, à l'Assemblée nationale. C'est de préparer les deux échéances futures, législatives et présidentielles. Et puis, je vais être franc avec vous aussi. On aurait pu faire une liste debout la France sans moi. Ça aurait été très bien. Il y a des personnalités debout la France qui auraient pu la faire. Mais on n'avait pas les moyens financiers, ou du moins, on ne voulait concentrer, garder nos moyens financiers pour les échéances suivantes, parce que moi, j'ai toujours refusé la moindre dette. Vous savez, avant de bien gérer la France, il faut être capable de bien gérer son parti. Moi, j'ai toujours refusé des dettes à mon parti parce que je veux être un être libre.
Pas de liste, donc, Nicolas.
Il
n'y
aura pas de liste parce que nous voulons concentrer nos moyens sur les échéances
comme
futures.
Chaque voix compte,
et puis, il y a beaucoup de listes.
Pour qui vous appelez à voter?
Ah, ben, on verra le moment venu.
Vous voyez déjà tout.
En
vous
tout
connaissez
cas,
les
sûr,
têtes de liste, les numéros 2, les numéros 3.
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire battre à tout prix la liste, madame, je ne sais plus son nom.
Valérie Ayé.
Voilà. Et puis de M. Glucksmann, qui sont dangereux.
Dangereux.
Et après, oui, dangereux. Les deux sont dangereux pour la France. Parce qu'ils veulent supprimer la France. La rayer de la carte.
Supprimer la France.
Bah oui, quand vous transférez tous les pouvoirs à Bruxelles, vous supprimez la France. Après, vous avez toutes les nuances de souverainisme. Du plus souverainiste d'Asselineau, Philippot, après Bardella, Marion Maréchal. Et vous voudriez que moi j'ajoute ma petite musique? Moi, j'ai pas le goût des petites soupes. Voilà. J'ai envie.
Ça reste quand même un scrutin, ça reste qu'une bataille.
C'est très important.
Vous l'aviez mené autrefois.
Mais oui, c'est très important. Mais il y a beaucoup de listes. Moi, je me concentre sur la France. C'est l'enjeu pour moi, en tout cas. Notre France est en train de crever. Je crois que tout doit être fait pour la sauver. Et c'est l'essentiel. Maintenant, bonne chance à tous ceux qui y vont, parce que c'est un noble combat.
À bon entendeur. Merci, Nicolas Dupont-Aignan. C'est votre grande interview. Je vous dis à
bientôt.
Merci
à vous.
Merci Sonia Mabrouk et Nicolas Dupont-Aignan. Dans un instant sur Europe 1, vos signatures du mardi, à commencer par Gaspard Proust. À tout de suite.
7h-9h, Europe 1 Matin.
Et voici Bonu, vos signatures Europe 1. Dans un quart d'heure, le zapping politique de Dimitri Vernet. Emmanuel Ducrot nous parlera de William Shakespeare. Certains veulent à tout prix que le dramaturge ait été une femme. D'autres lui reprochent son théâtre trop blanc, trop masculin, trop cisgenre. C'est tellement 2024. La revue de presse d'Europe 1 aussi. Bonjour Olivier Delagarde.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Dans les journaux ce matin, dites-nous.
Eh ben moi, je ne vais pas vous parler de Shakespeare, je vais vous parler de Jean Racine avec l'affaire Isabelle Huppert. Et puis on parlera évidemment de la violence à Moscou et de l'alerte Vigipirate qui est remontée sensiblement.
A tout de suite, mais d'abord, Gaspard Proust est avec nous. Bonjour Gaspard, comment ça va?
Comme moi, vous avez vu les infos, hein, le monde est au bord du gouffre, Dimitri.
Ah oui, c'est sûr, l'attentat en Russie, Israël, la guerre en Ukraine, la dette publique maintenant aussi. Hein.
Non mais vous êtes impayables, vous autres journalistes. Hein.
Oui.
Au fond,
pourquoi
vous ne faites que confirmer cette phrase de Jacques Chiracouille, la fripouille.
Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
Pourquoi il y a des choses plus graves que ce que je viens de vous citer, non?
Mais évidemment, vous avez juste loupé le choc des titans, Danser avec les stars, Inès Reg qui s'embrouille avec Natacha Saint-Pierre, Holyfield Tyson version claquette, Al Pacino contre De Niro en tutu barre au sol. Mais comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qu'on a fait à John Travolta?
Non mais sérieusement, c'est vraiment ça qui vous
mais
a bouleversé?
Mais vous vous rendez pas compte, mais zut flûte crotte, comme dirait Aya Nakamura. Hello papy, mais qu'est pas ça? Il y a même plus un endroit, un petit havre de paix, on pourrait tous se prendre par la main et faire une grande farandole? Est-ce qu'il y a encore dans ce monde un endroit où on peut juste faire pouce et jouer à chat perché pendant 30 secondes? Surtout, ce qui me dégoûte, c'est que Inès, Miss Moulure et Payette étaient en train de répéter une nouvelle figure ultra acrobatique qui aurait fait sensation.
À laquelle?
Le double strike caméra boum boum.
C'est quoi ça?
Tu prends la danseuse, tu la fais tourner, tourner, d'un coup tu la lâches et glisse vers le caméraman et bim, après Dirty Dancing, Bowling Dancing.
Non mais plus sérieusement, Gaspard, que ça vous a choqué cette affaire, peut-être on peut la raconter aux auditeurs qui l'auraient pas vu.
Si, si, ils ont vu. Non mais vous rendez pas compte de l'importance de cette émission, surtout pour nous autres people, en fait c'est un peu perso.
C'est-à-dire?
C'est une émission de la dernière chance, c'est les frères Emmaüs du people qui se trémousse, tu vois.
C'est votre hantise qu'on vous propose de faire danser avec les stars, vous?
Ah bah le jour où on t'appelle pour te dire voilà, on a pensé à toi pour faire danser avec les stars, pff, c'est comme si on venait de t'annoncer une maladie incurable ou que t'étais obligé de partir en vacances avec Jean-Michel Apathy, tu vois. C'est des trucs dont on se relève pas. Après moi je juge pas, c'est pas mon genre, hein. Je me mets à la place des gens qui ont accepté, tu vois. Ils ont peut-être une véranda à changer, un toit à refaire, une glacière Jiffy à acheter. Nous les people, on a tous très peur de ce moment où TF1 t'appelle et te disent voilà, écoute, tu sais, parce qu'ils ont le pif pour repérer la star qui est passée direct de la quatrième vitesse à la marche arrière. Ils se disent, bon, machin, il fait plus rien, on le voit plus. Pour peu qu'il ait trois pensions alimentaires sur le bras et un crédit, il y a quand même moyen de lui faire manger en direct une banane avec la peau, tu vois.
Mais Gaspard, vous exagérez, il y en a peut-être qui veulent juste montrer leur talent de danseur.
Ah bah écoutez Dimitri, si c'est un projet purement artistique, je valide. Alors là, Rabbi Jacob, il dit oui. Mais vous savez, moi, de voir ces gens danser, ça m'a donné l'idée d'une autre émission.
Ah, laquelle?
Bah, pour faire une émission vraiment ludique et proche des Français, plutôt que de faire danse avec les stars sur le parquet, pourquoi pas plutôt leur faire nettoyer le parquet?
C'est-à-dire?
Bah, plutôt que danser avec les stars, récure avec les stars. Ou swing avec la Javel, hein? Alors attention, on regarde les mêmes, hein? Faut pas oublier que ce sont eux qui font l'émission.
Mais vous pensez que les gens vont accepter de faire ça?
Évidemment, c'est les artistes, c'est des gens de gauche, hein. Dès que tu peux leur faire jouer le rôle d'une femme de ménage avec le salaire d'un PDG du CAC 40, ils signent tout de suite, hein. D'ailleurs, me vient une idée. Si dans le monde du cinéma, on payait les comédiens avec les vrais salaires du métier qui joue à l'écran.
Ah oui.
Ah bah ouais. Je peux dire que le cinéma français ferait plus que des films sur les Golden Boys, hein. Anatomie d'une chute à Wall Street. Non mais Dimitri, ça pourrait faire une belle émission, on récure avec les stars,
c'est
on ferait
vrai.
Ça dans un squat, tu sais, qui vient d'être évacué, plein de couloirs, de cuisines, de toilettes turques, ça serait rempli de pièges, tu sais, le ninja warrior de la bactérie, tu vois, le Koh-Lanta du sopalin. Et chaque candidat, il aurait pour mission de nettoyer une pièce du hangar, et forcément, chaque candidat, bah, il aurait ses forces et ses faiblesses.
Ah, par exemple.
Bah, tu vois, il y en a un qui dirait, alors moi, mon truc, c'est vraiment les éviers. Hein. Alors, dès qu'il y a de l'inox taché de calcaire, je suis à donf, moi, tu vois. Moi, tu me laisses seul sur une île déserte avec un litre de vinaigre blanc et une bouilloire entartrée, je suis le plus heureux des hommes. Ou tu vois, où il y a un autre qui dirait, alors moi, non, moi, c'est vraiment les douches à l'italienne, tu vois, quand les joints commencent à se décoller et que des petites moisissures apparaissent. Et je sais qu'il y en a pour des plombes à récurer, j'ai le début d'une demi-molle, tu vois. Et puis, t'en aurais un autre, je sais pas, moi. Ah, moi, mon truc, je suis pas dans l'aquatique, moi, c'est plus la poussière, tu vois, je suis un terrien. Puis que j'ai 4 ans, je collectionne les sacs d'aspirateurs remplis, j'en ai plein à la maison. Bon, le problème, c'est que j'ai pas de bol, toute la famille est asthmatique, vraiment, je sais pas d'où ça vient. C'est vraiment un concept qui me vient là tout de suite. C'est comme Dupont de Ligonnès, c'est pas prémédité.
Et vous pensez que ça marcherait vraiment?
Les Français ont envie d'avoir des images positives. Je peux vous assurer que ça ferait vraiment du bien de voir toutes ces stars avec un fichu sur la tête, des gants MAPA, en bottes aigle, à transpirer le nez dans un bidet. Et si en plus on fait une spéciale homme politique, Succès garanti.
Je vous y vois aussi.
Vous avez vu ce matin,
ça serait géopolitique. Pas mal du tout, hein.
Vous avez fait le ménage ce week-end, non? Peut-être, non? C'est pas ça?
Oui.
Voilà.
Oui, oui, c'est vrai. On parle toujours que de soi, vous le savez.
Récure avec les stars.
Hello. Ça va arriver, ça va arriver. Europe 1. C'est sûr.
Merci Gaspard.
Je vous en prie.
Emmanuel Ducrot vient de faire son entrée. On va parler de William Shakespeare. On va se hisser comme ça un petit peu dans un instant, oui. Juste après la revue de presse d'Olivier Delagarde. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence avec des photos chocs.
Ce sont quatre hommes, leurs visages tuméfiés. Laisse imaginer la violence des coups qu'ils ont reçus. Et pour tout dire, l'image fait froid dans le dos. Photo des quatre auteurs présumés de l'attentat de Moscou que le Figaro a décidé de montrer à ses lecteurs parce qu'elle témoigne de la torture qu'ont subi ces hommes. Et tout cela est délibéré, explique aussi le Parisien ce matin. La Russie met en scène la torture, explique effectivement le journal. Sur d'autres images, que nous n'avons pas pu vérifier, précise Léo Hagues dans ses colonnes, on voit aussi l'un des assaillants présumés subir des chocs électriques sur les parties génitales, un autre se faire trancher l'oreille par un individu. Ces pratiques d'une extrême brutalité sont assez communes en Russie pour obtenir des aveux, et elles sont désormais complètement assumées comme pour afficher l'envie de vengeance, affirme le journal. Elles sont aussi à n'en pas douter le signe du grand désarroi qui règne au Kremlin. Pour vous en convaincre, lisez la tribune lumineuse que signe Pierre Lelouch dans le Figaro et qui évoque l'humiliation que représente cet attentat pour Vladimir Poutine, qui n'a rien vu venir malgré les mises en garde récentes des États-Unis.
Et la conséquence de ces attentats à Moscou se fait sentir en France.
Avec le relèvement spectaculaire du plan Vigipirate en urgence attentat. Mais ce qui est intéressant, c'est que la presse se divise finalement en deux camps aujourd'hui. Ceux qui préfèrent ne pas trop en parler, et même ne pas en parler du tout, avec l'idée, on imagine, de ne pas trop inquiéter le lecteur et de ne surtout pas lui donner envie de voter en faveur de candidats qui font de la sécurité une priorité. Pas un mot à la une de l'Humanité, de Libération ou de la Croix. Et puis il y a ceux qui y consacrent leur plus gros titre, la France en alerte, titre le Parisien aujourd'hui en France. En alerte maximale, renchérit le Figaro. Oui, les Français projetés dans le chaos global, annonce l'Opinion.
L'autre grand sujet ce matin, c'est la dette.
Même s'il n'était pas connu précisément par les journaux, le taux d'endettement divulgué ce matin n'est malheureusement pas une surprise. Après avoir fait fuiter 5,6%, le gouvernement n'annonce finalement que 5,5, colossale finesse de communication. Non, si vous avez encore un doute sur la gravité de la situation, lisez la chronique de Jean-Marc Vittori dans Les Échos sur les 7 raisons d'avoir peur. D'ailleurs, un vent de panique soufflait ces derniers jours dans les allées du pouvoir, raconte-t-il. Et pourtant, la solution est simple pour Libération, nostalgique des années Hollande. Le journal appelle de ses voeux une puissante hausse des impôts et s'appuie sur un sondage assez cocasse d'où il ressort que, oh surprise, les Français sont effectivement très favorables à une hausse des impôts des autres. Seuls 4% des personnes interrogées accepteraient une hausse de la fiscalité pour tous les ménages.
Alors sinon, retour du quotidien La Provence en kiosque ce matin.
Après 3 jours de grève et la réintégration du directeur de la rédaction, évincé après la publication d'une une qui, on l'a bien compris, n'avait pas du tout plu à Emmanuel Macron. Dans le Figaro, Jean-Christophe Tortora, le patron du pôle média de CMA-CGM, propriétaire du quotidien marseillais, affirme sans rigoler que Rodolphe Saadé, réputé proche du président de la République, rappelle le Figaro, n'est jamais intervenu à La Provence. Jamais. D'ailleurs, il nous apprend que son big boss sera lui aussi entendu à l'Assemblée nationale dans le cadre de la commission d'enquête sur l'attribution des fréquences télé, mais que, oh surprise, lui sera entendu à huis clos. Mais on va terminer par l'affaire Isabelle ce matin, et là, c'est pas un huis clos. Depuis quelques semaines, Isabelle Huppert joue à Paris une Bérénice qui interroge même les critiques les plus ouverts à l'avant-garde théâtrale. Pour ce public exigeant, c'est quand même très dur. D'ailleurs, beaucoup d'amoureux de Racine quittent le théâtre avant la fin. Mais Libération nous apprend qu'il y a quelques jours, au scandale, un spectateur a interrompu le spectacle en criant « On comprend pas ce que tu dis, Isabelle !» avant de la huer. Et le plus grave, une partie du public a ri. Les deux auteurs qui racontent l'affaire à Libé, eux, en ont pleuré. L'ironie de l'histoire, c'est qu'elle rappelle exactement le scénario du film Yannick de Quentin Dupieux l'année dernière, où un spectateur interrompt une pièce de théâtre. La critique avait encensé Dupieux, mais lui n'avait quand même pas osé s'en prendre à la reine Isabelle Huppert. Allez, juste pour le plaisir, et je vais essayer de parler distinctement pour ne pas me faire huer. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous Seigneur, que tant de mer me sépare de vous, que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice.
On a compris tout ce que vous avez dit, Olivier Delagarde. C'était formidable. Vous avez une meilleure élocution qu'Isabelle Huppert, vraisemblablement.
Ouais, vous n'allez pas me faire des amis. Hein.
Merci beaucoup, Olivier Delagarde. La revue de presse d'Europe 1.
C'était la revue de presse avec Conto. Un compte pro et des outils adaptés aux PME pour la gestion des dépenses, la facturation et la comptabilité. Conto, c'est le compte pro qu'il vous faut.
Mais qu'on soit bien clair, on lui reproche une mauvaise interprétation, Isabelle Huppert, Olivier Delagarde.
Oui, et puis la mise en scène de Castellucci.
Ah, d'accord.
Castellucci.
Castellucci, bon, est-ce qu'on en parlera tout à l'heure? De 11h à 13h sur Europe 1, je ne sais pas, on va demander ça avec l'homme de la situation, Pascal Praud. Pascal Praud et vous, bonjour Pascal.
On va parler
Pascal.
De la dette, bonjour.
Oui.
Bonjour, les Mozart de la finance.
Oui.
J'ai l'impression qu'ils ont écrit le Requiem. C'est bien le souci d'ailleurs, parce que Mozart c'est large.
Oui.
Non mais on peut avoir simplement une réflexion toute simple de bon père de famille. C'est-à-dire que c'est géré n'importe comment, voilà, on va dire les choses. La réforme de l'État, c'est ni de droite ni de gauche, la réforme de l'État. Ça fait combien de temps qu'elle n'est pas faite scrupuleusement dans ce pays? On peut multiplier le nombre d'exemples. L'aide médicale d'État, allez expliquer à quelqu'un de l'étranger qui n'a jamais cotisé de sa vie, qui ne va rien payer à l'hôpital, alors que vous, qui cotisez, on vous fait payer l'hôpital. Tout ça est invraisemblable. Bon. Donc on en est là aujourd'hui, mais il faudrait sans doute renverser la table dans ce déficit public. Personne ne le fait, donc...
Vogue la galère.
Ça continue encore et encore, bien évidemment. Alors évidemment, c'est plus simple de dire taxons les riches, taxons les super-profits, taxons, etc., etc. On pourra parler de la menace terroriste, bien sûr, très élevée en France. On n'a jamais autant déjoué d'attentats en France, a dit le ministre de Gérald Darmanin, au moment où les Jeux Olympiques arrivent, avec cette cérémonie d'ouverture qui sera sur la scène et qui effectivement pose beaucoup d'interrogations. Et puis, voilà les grands sujets du jour, sauf si vous souhaitez évoquer autre chose.
Vous avez pas de légèreté, parce que là, quand même...
Écoutez, vous avez vu que les pièces de 2 euros qui ont été distribuées aux écoliers sont revendues parfois par eux-mêmes jusqu'à 600 euros.
Quoi, une pièce de 2 euros, ça vaut 600 euros?
Ces pièces gravées d'une tour Eiffel sont en vente pour 20, 35 et même 250, voire 600 euros.
Mais oui, c'est ça. Mais on a trouvé la solution au déficit public, là, Pascal, vous ne vous rendez pas compte.
Bien sûr. Et est-ce que vous savez quelle est la personnalité préférée des 7-14 ans selon le sondage Mickey?
Kylian Mbappé?
Non, c'est le chanteur Soprano.
Ah, Soprano.
Exactement. Et ça fait 25 ans qu'il est le chanteur préféré des 7-14 ans, quelque chose comme ça.
Et le deuxième, c'est Antoine Griezmann. Troisième, Thomas Pesquet, et Mbappé arrive en quatrième place.
Et vous êtes cinquième, je crois.
Non, je suis... C'est auprès des 92-102.
J'ai lu le sondage avec ma fille qui est abonnée au journal de Mickey. Il y a plein de gens que je ne connais pas.
Vous ne connaissez pas Antoine Griezmann?
Si, lui, je le connais. Bon. Non, mais Soprano, vous connaissez.
Moi, j'ai un gros succès auprès des 95 ans, 105 ans. C'est une niche.
Mais vous savez, Pascal, c'est une niche. Mais c'est l'avenir. Dans le contexte du vieillissement de la France, nous aurons tous 95 ans. On embrasse tous les presque centenaires sur Europe 1 ce matin. Bon, merci Pascal.
On les embrasse fort.
Oui, très
01 80 20 39 21. Pascal Praud et vous, c'est tous les jours 11h 13h et le numéro est non surtaxé. N'hésitez pas.
Oui, et puis c'est dans 10 minutes aussi pour l'heure des pros. A tout de suite Pascal. Emmanuel Ducrot, c'est à vous. Vous nous racontez ce matin une polémique britannique. Ils sont très forts les Anglais pour ce genre d'histoire. L'accusé est de marque. William Shakespeare, rien que ça, des chercheurs tentent de faire tomber le dramaturge de son piédestal.
C'est une histoire croustillante racontée par le quotidien The Telegraph. Elle se passe dans une université londonienne, Roehampton. Un groupe d'universitaires y mène une étude dont le but est de recentrer la lecture théâtrale sur les communautés marginalisées dans la représentation contemporaine des premières pièces modernes. Je vous la fais courte sur les conclusions. À cause de la place culturelle de Shakespeare, le théâtre est trop blanc, masculin, hétérosexuel et cisgenre. Après le roi lire, le roi délire.
Bah, cisgenre, je précise pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire quand on a, l'identité sexuelle, on a les organes génitaux de son genre. Voilà. Vous êtes un homme et vous êtes
hétérosexuel. Voilà.
Vous êtes une femme, vous êtes une femme. Bon, et cette affaire fait grincer des dents outre-manche.
Oui, passe encore qu'on enfonce des portes ouvertes, à savoir que Shakespeare était un homme de son temps. Ce qui agace le plus, c'est que de l'argent public a été investi dans cette étude. Beaucoup d'argent public. 800 000 livres, 950 000 euros donnés par un conseil de recherche en arts et sciences humaines financé par le contribuable. Lequel conseil est accusé maintenant de faire dans le putaclic culturel, il y a quelque chose de pourri au royaume de l'arnaque.
Bon, que disent les... Vous n'avez pas faire toutes les... les pièces de Shakespeare. Que disent les détracteurs de ce projet de recherche?
Qu'à l'époque de Shakespeare, la population européenne était blanche, que la société était masculine et que l'homosexualité était réprimée. Vouloir à tout prix rendre Shakespeare responsable de ce qu'il a véhiculé est un contresens. Vouloir nier son contexte historique est une bêtise, mais visiblement, on ne fait pas d'Hamlet sans casser des œufs.
Est-ce qu'on apprend quelque chose dans cette étude tout de même?
Le contribuable n'a pas tout perdu, hein. L'histoire ne s'arrête pas là. L'équipe des chercheurs a entrepris de prouver que si les contemporains de Shakespeare avaient été un peu plus ouverts aux questions de genre et aux préoccupations LGBTQIA+, ils ne seraient pas passés à côté d'un autre dramaturge, un dénommé John Lyly, L-Y-L-Y. Lui, il avait tout compris. Sa pièce Galatea met en scène des personnages déguisés en personnes du sexe opposé, une œuvre qui offre, je cite, une démographie affirmative et intersectionnelle sans précédent, explorant les vies féministes, queer, transgenres et migrantes. Alerte, anachronisme, pas de bol, hein, cette pépite tellement brillante n'a pas été jouée depuis 1558. L'équipe va donc lui redonner une vie théâtrale, c'est l'art de la tempête dans une tasse de thé.
Donc on est en train de redécouvrir un auteur injustement méconnu, mais vous nous dites que ces auteurs vont au-devant de graves désillusions.
Mais oui, il y a un constat inacceptable pour le monde intersectionnel et woke. Si Shakespeare dure, c'est parce qu'il met en scène des thèmes universels auxquels on peut tous s'identifier, l'amour, la haine, l'ambition, la perte, la jalousie, le langage commun de l'humanité. Et ça, quand on voit le monde à travers son nombril, le nombril de l'identité, c'est insupportable. Et tout ce qu'on a trouvé à opposer à Shakespeare dans cette affaire est un auteur mineur, oublié, exhumé juste parce qu'on peut lui coller sur le dos et sans son consentement des obsessions contemporaines de genre et d'identité. Le pire, c'est que ça se veut être une déconstruction très audacieuse, alors que c'est devenu incroyablement banal et conformiste. Beaucoup de bruit pour rien.
Ça va, Gaspard? Vous tenez le coup, là?
C'est une souffrance.
Ces gens sont jamais fatigués. C'est ça qui m'impressionne.
Je vous ai vu défaillir quand elle a parlé des vies féministes, queer, transgenres et migrantes. Voilà. C'était trop pour vous, non? Bon, merci. Bon, allez. On va écouter le zapping politique.
Zappons.
Merci, Emmanuel Ducrot, signature Europe 1, 8h52.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Et donc, le zapping politique, Dimitri Vernet. Bonjour, Dimitri.
Bonjour à tous. 1, 2, 3, 4.
L'objectif pour moi de sauvage, c'est de revenir aussi sur ce qui n'avance pas assez vite à mes yeux.
Hier, le président Emmanuel Macron a atterri en Guyane pour une visite d'un jour et demi. Bon, j'espère qu'il sait où il est, vraiment, parce qu'en 2017, ce n'était pas trop ça. Hein.
Ce qui se passe en Guyane, en effet, est grave. Je crois que bloquer les pistes d'aéroport, parfois même bloquer le fonctionnement de l'île, ne peut être une réponse apportée à la situation.
Ne t'inquiète pas pour le commandant Luc. Il reviendra sain et sauf. Il est très malade pour un être humain.
Guyane, une île française donc, qui a accueilli ces derniers jours la députée écologiste Marine Tondelier. Une députée écolo, j'insiste.
Et je voulais vous parler avant de rentrer de cet arbre juste derrière moi. Il a été planté il y a 20 ans. C'est un arbre qui symbolise notre engagement écolo. Et moi, je reviens tous les ans maintenant voir comment cet arbre va pousser.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux.
Donc Marine Tondelier nous explique qu'elle va en Guyane tous les ans en avion pour voir un arbre pousser. Bah dis donc, il doit être sympa son bilan carbone, c'est sacrément écolo ça. Oui.
700 kilos de CO2.
Nono Bruno, bah oui, Nono Bruno. On parle de Bruno Le Maire maintenant, le ministre de l'économie, qui l'a promis vendredi sur BFM TV, il n'y aura pas de hausse d'impôts.
On sera un tête à queue complet, que dire, nous avons baissé les impôts pendant 7 ans, puis maintenant nous allons les augmenter. Ils n'augmenteront pas, les impôts n'augmenteront pas, ça n'est pas la bonne solution.
Mais bah vous connaissez le dicton avec Bruno. Écoutez le dicton d'Éric Zemmour.
Tout ce qu'il dit, il ne l'a pas fait. Il a même fait le contraire.
Eh bien, cela semble encore se confirmer. Écoutez la réponse de Yaël Braun-Pivet sur une possible hausse d'impôts.
Il ne doit pas y avoir de tabou, aucun. C'est du bon sens. Réduire les dépenses, augmenter les recettes quand la situation ne va pas bien.
3 jours plus tard, il n'y a déjà plus de tabou. Et encore, ce n'est pas comme si depuis le 1er janvier, la taxe sur le gaz naturel avait doublé, que le paquet de cigarettes avait connu des hausses. Non, ce n'est pas vrai tout ça.
Le gros mytho.
Les impôts n'augmenteront pas.
Allez. On termine avec Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui enfonce des portes ouvertes.
Bien sûr, les Jeux vont causer des désagréments pendant quelques semaines aux Franciliens. C'est vrai, c'est inévitable.
Bah merci Valérie, parce qu'on n'était pas au courant. Bon, cependant, elle nous a donné quelques précisions concernant les transports en commun.
Je rappelle que les lignes les plus impactées sont la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 12, la 13, la 14.
Ah oui, oui, c'est, ça fait beaucoup, hein.
Le T3A, le T3B, le B, le C, le D.
Bon, bah, attendez, ça s'arrête quand, là? C'est un ticket de loto, hein.
Et les trains NUJLP.
Bah, décidément, ça s'annonce super, ces JO, hein.
Mais il faut pas avoir peur de faire un peu de marche. Ouais. C'est bon pour la santé. On est au mois d'août. On espère que on profitera aussi pour voir le bois de Boulogne et profiter des berges de la Seine.
Bien sûr.
Merci beaucoup Dimitri Bernet. Votre zapping politique, on vous retrouve avec plaisir dès demain.
À demain.
N'oubliez pas, vous avez rendez-vous dans une demi-heure avec Culture Média. Thomas, il reçoit ce jour Anissa Haddadi.
Elena Noguera pour la nouvelle série d'M6 Brigade Anonyme aux côtés d'Éric Cantona. C'est à partir de ce soir sur M6. Et puis l'invité culture, Nicolas Rey, pour nous présenter son nouveau roman, excellent roman.
Nicolas Caro, non, il l'a lu trois fois depuis deux semaines.
Médecine douce, c'est un roman très réussi. On va en parler de 10h à 11h sur Europe 1.
Voilà, et puis l'actu continue dans un instant. Vous avez rendez-vous avec l'heure des pros sur CNews et Europe 1. Bonne journée.